Et bonjour à tout le monde. Oula, j'ai un retour bizarre. J'entends ma voix qui revient. Pour le karma, c'est pas mal, mais... peut-être qu'il va falloir... Ouais, c'est le son désactivé. J'ai dû faire... Oui. C'est bon, ouais, c'est parfait. Voilà, il fallait cocher la bonne case ou décocher la mauvaise. Bon, ben, on peut commencer. Merci, Sanka. Vous entendez bien sur Internet? Tout va bien? Oui, parfait. Bon, c'est que c'est Sanka qui gère, mais j'ai l'habitude de poser la question. Bon, on va commencer par un peu de méditation. C'est fort, non? Un concert de rock. Mettez-vous vos boules qui est. Donc, on va commencer par un peu de méditation, comme d'habitude. C'est bien pour commencer la session. Donc, on va faire deux types de méditation. On va faire la méditation de placement, c'est-à-dire où on place son attention sur un objet. Et on essaye de la maintenir sur cet objet, donc que ce soit le souffle ou que ce soit l'image du Bouddha. C'est bien l'image du Bouddha, si on peut, parce que ça donne déjà la teneur un peu de l'enseignement pour ce qui va suivre. Sinon, si c'est trop difficile, restez simplement sur la respiration, sur le va-et-vient du souffle que vous pouvez observer, soit à l'entrée des narines, soit à l'abdomen, là où vous ressentez le passage de l'air. Vous essayez de rester attentif à la qualité de l'air qui rentre et qui sort, sans intervenir. Bien sûr, il faut faire ça avec une posture correcte, qui soit adéquate, disons, et qui permette justement de bien observer ce qui se passe, donc d'être à la fois détendu physiquement, mais mentalement, très alerte. Et après, on enchaînera sur une méditation analytique sur le lamrim. Donc on fait une méditation pendant contemplative pendant on va dire 5-6 minutes. Relâchez bien les épaules. Imaginez que quand vous inspirez, vous inspirez en fait toute la sagesse, la compassion des Bouddhas et des Bodhisattvas qui, sous la forme d'une lumière blanche, qui rentre par votre narine droite. Et quand vous expirez, vous pensez que vous éliminez de vous toutes les impuretés qui sortent par votre narine gauche, sous la forme d'une fumée noire. Comme dernier exercice, vous allez inspirer par les deux narines. Lentement, vous inspirez l'air. Et lorsque l'air est complètement descendu à la base de la colonne vertébrale ou au niveau du nombril, vous retenez l'air tranquillement, sans trop forcer, mais en contractant le sphincter. Vous essayez de retenir l'air à ce niveau-là, au niveau du nombril. Pas trop longtemps, juste le temps que ça devienne inconfortable. Et vous relâchez. Lentement. Vous faites ça 3 fois. Donc vous inspirez, vous expirez par les narines, hein, pas par la bouche. En même temps, vous sentez que ça apporte beaucoup de clarté dans votre esprit, qui devient plus spacieux, plus clair. Et on va utiliser cette clarté pour méditer de manière analytique sur les points de l'amrim, en pensant d'abord à la chance que nous avons d'avoir cette précieuse existence humaine. Précieuse au sens où elle nous permet de... d'atteindre vraiment tous nos objectifs, que ce soit dans cette vie, dans les vies futures, que ce soit la libération, et que ce soit l'éveil. Donc c'est comme si on avait un joyau qui exauce les souhaits. Pensez que cette précieuse existence humaine, elle n'est pas venue toute seule, il a fallu en créer les causes. Forcément, que ces causes, vous les avez créées dans des vies antérieures pour pouvoir être là aujourd'hui, essayer de mettre en pratique, d'intégrer les enseignements du Bouddha. Et que ces causes ont été difficiles à obtenir. Il a fallu faire des efforts, il a fallu y consacrer du temps et de l'énergie. Donc nous en avons les bienfaits maintenant. Donc à nous de poursuivre le voyage, la progression vers l'éveil. Sachant que nous ne sommes pas immortels, donc on va forcément devoir mourir à un moment donné. Quand, on ne sait pas, mais c'est certain que ça va arriver. Et qu'à ce moment-là, seule vraiment notre pratique du dharma sera d'une grande aide, sera bénéfique. C'est-à-dire, ce qui va vraiment nous aider à ce moment-là, ce sont les graines vertueuses, positives, qui sont dans notre courant de conscience et qui vont pouvoir germer et nous assurer une réincarnation favorable. Dans un état d'existence heureux, fortuné, qui nous permettra de continuer de progresser sur la voie spirituelle dans les meilleures conditions possibles. Mais on pense que si, même si on renaît dans le samsara encore, ça sera toujours une prison. On sera encore à la merci de nos perturbations mentales, à la merci du karma, sans avoir aucun choix vraiment de notre part. On devra subir les innombrables souffrances qui peuvent s'élever à cause de graines karmiques qui n'ont pas été purifiées. Souffrance physique, souffrance mentale. Toutes sortes de souffrances qu'on connaît bien, liées à nos relations avec les autres, professionnelles, familiales, sociales. Toutes sortes d'insatisfactions qui font qu'on n'a pas vraiment, dans le samsara, un vrai bonheur, un état de quiétude parfaite, mais qu'on est toujours agité par maintes souffrances ou maints problèmes. Alors que la seule chose que nous désirons vraiment, c'est un bonheur stable et durable. Donc pour obtenir ce bonheur stable et durable, il nous faut absolument sortir du samsara. Autrement dit, cultiver ce renoncement à la souffrance. Donc on essaye de générer dans son esprit l'aspiration à la libération. Être libéré du cycle. Puis on réfléchit au fait que même si on est libéré du cycle des existences, nous-mêmes, est-ce que c'est vraiment satisfaisant? Certes, on est libéré, mais sachant que tous les innombrables êtres continuent à souffrir dans la samsara, est-ce qu'on peut vraiment être satisfait? Et là, on essaie de générer un sentiment de compassion envers tous les êtres qui souffrent et le désir profond de vouloir les aider à éliminer leurs souffrances. On réfléchit alors au fait, est-ce qu'on a la possibilité de libérer les êtres de toutes leurs souffrances pour les amener à une libération parfaite? Dans l'état actuel des choses, c'est impossible. On n'arrive même pas à être vraiment bénéfique à soi-même, alors encore moins à tous les êtres. Et le seul état qui va nous permettre d'être vraiment bénéfique aux autres et à nous-mêmes, c'est l'état de Bouddha. Un être pleinement éveillé, qui a éliminé tous ses défauts, qui a éveillé toutes ses qualités, qui a à la fois la sagesse et la compassion. Donc on essaye de tendre notre esprit, diriger nos pensées vers l'obtention d'un tel état. De mettre cette intention dans notre cœur, donc, puisque si on met l'intention, forcément le résultat arrivera un jour ou l'autre. Et donc, on va mettre dans notre cœur maintenant les deux causes qui nous permettront d'atteindre l'éveil de manière figurative. On va visualiser que la compassion que l'on ressent pour tous les êtres prend la forme d'un disque de lune blanc situé dans notre cœur, irradiant de lumière blanche, horizontale donc. Ça, c'est notre aspect de compassion. Et par-dessus ce disque de lune, on va visualiser un vajra blanc qui représente en fait notre sagesse, qui réalise, qui comprend la vacuité, l'interdépendance, c'est pareil, de tous les phénomènes. Que tous les phénomènes sont interdépendants, qu'ils n'existent que par interdépendance et non pas par eux-mêmes. Et cette compréhension du vide, de l'absence d'existence intrinsèque, prend la forme d'un vajra à 5 branches, blanc, irradiant de lumière aussi, posé verticalement sur le disque de lune dans notre cœur. Et on imagine que ces deux symboles, de ces deux bodhicitta, relatives et ultimes, partent des rayons de lumière qui emplissent notre corps tout entier, éliminent tous nos voiles, tous nos obscurcissements, toutes nos perturbations mentales, tout notre karma négatif, créé par l'esprit, par le corps, par la parole. Et ainsi, nous éveille à l'état de Bouddha. Puis on imagine que ces rayons de lumière sortent par tous les pores de notre peau, vont dans toutes les directions, vont toucher les êtres. Donc ces rayons de lumière, à leur extrémité, portent aussi un disque de lune et un vajra qui vont au contact des êtres, les bénissent, leur permettent de transformer leur esprit pour qu'ils deviennent eux aussi, à leur tour, des Bouddhas. Et on ressent une grande joie en pensant à ça, que tous les êtres, nous-mêmes et tous les êtres, sommes devenus Bouddhas. Donc on va continuer maintenant à mettre plus de causes possibles dans notre courant de conscience et on va réciter les prières au début des enseignements. Donc ces prières donc, ont pour but de développer de notre accumulation de mérite et de sagesse. D'abord donc la louange au Bouddha Shakyamuni, après le sutra du cœur. Page 73. Dans le livre doré. Okay. Donc, première fois en tibétain et ensuite en français. Lama tampa chonden de shinche padra jampa yanda padzo pe sangye. Rigpa dangja sutempa, dewa shekpa, jikten kempa, kepu durwe kalo gyurwa, lana mepa ladam minam gitempa, sangye chamdende ngelwa shakya tupa la chatsalo, cheto kyapsuchi om. maître enseignant Bhagavan, Tathagata, Arhat, Bouddha pleinement accompli, parfait en connaissance et en bonne conduite, Sugata, connaisseur du monde, insurpassable guide des êtres à discipliner, enseignant de tous les dieux, de tous les hommes, à vous, Bouddha, Bhagavan, glorieux conquérant, Shakyamuni, je rends hommage et présente des offrandes, en vous je prends refuge. Maître enseignant, Bhagavan, Tathagata, Arhat, Bouddha pleinement accompli, parfait en connaissance et en bonne conduite, Sugata, connaisseur du monde, insurpassable guide des êtres à discipliner, enseignant de tous les dieux, de tous les hommes, à vous, Bouddha, Bhagavan, glorieux conquérant, Shakyamuni, je rends hommage et présente des offrandes, en vous je prends refuge. Vous, chef parmi les hommes, votre naissance, vous avez fait cette passe sur cette grande terre et annoncé « Je suis suprême en ce monde ». À vous, sage en ce temps-là, je rends hommage. Corps parfaitement pur, forme éminemment noble, océan de sagesse, vous êtes pareil à une montagne d'or et votre renommée illumine les trois mondes. À vous, sauveur suprême, je rends hommage. Vous êtes orné des marques excellentes, votre visage est semblable à une lune immaculée et votre teint pareil à l'or. À vous, je rends hommage. Pur comme vous, les trois mondes ne le sont pas. À vous, dont la sagesse est incomparable, je rends hommage. Sauveur à la grande compassion, enseignant qui connaît toutes choses, champ de mérite aux qualités aussi vastes que l'océan. À vous ainsi aller, je rends hommage. Par la pureté, il délivre de l'attachement. Par la vertu, il libère des renaissances infortunées. Unique chemin, réalité pure et suprême, au dharma qui apaise, je rends hommage. Vous êtes libéré et montrez la voie qui mène à la libération. Vous observez avec ferveur les préceptes de l'éthique. Champ pur doté de réalisation, à vous, assemblée suprême, vous et à la vertu, je rends hommage. Hommage au suprême Bouddha, hommage au refuge du dharma, hommage à la noble Sangha, avec une dévotion infinie, hommage à vous trois. À vous qui êtes dignes de respect, m'inclinant avec des corps aux aspects les plus divers, aussi nombreux que les atomes de tous les royaumes, avec une foi suprême, je rends hommage. Ne commettre aucune action nuisible, s'engager dans des actions saines, parfaites, discipliner complètement son esprit, tel est l'enseignement du Bouddha. Comme une étoile, une vue déficiente, une flamme, une illusion, une goutte de rosée ou une bulle, un rêve, un éclair ou un nuage, considérez ainsi tous les phénomènes composés. Par ses mérites, puissent les êtres atteindre l'état d'omniscience et vaincre l'ennemi, les défauts. Puissent-ils se libérer de l'océan de l'existence cyclique, agité par les vagues tumultueuses de la vieillesse, de la maladie et de la mort. Sutra du cœur de la perfection de la sagesse. Hommage aux trois nobles rares et sublimes. Voici ce qu'une fois j'ai entendu. Le Bhagavan se trouvait à Rajagriha sur les pics des vautours, entouré d'une grande congrégation de moines et d'une grande assemblée de bodhisattvas. À ce moment-là, le Bhagavan était absorbé dans la concentration sur les catégories de phénomènes appelées perceptions profondes. Au même moment, le bodhisattva Mahasattva Arya Avalokiteshvara contempla la pratique même de la profonde perfection de la sagesse. Et il vit que les cinq agrégats également étaient vides de nature propre. Puis par le pouvoir du Bouddha, le vénérable Shariputra, s'adressant en ces termes au bodhisattva Mahasattva Arya Avalokiteshvara. Les fils de la lignée, désireux de pratiquer la profonde perfection de la sagesse, comment doivent-ils s'y prendre ? Le bodhisattva Mahasattva Arya Avalokiteshvara répondit alors au vénérable Sharadvatiputra. Shariputra, les fils ou les filles de la lignée qui désirent pratiquer la profonde perfection de la sagesse doivent la considérer de la manière suivante. Ils doivent contempler correctement et à maintes reprises le fait que les cinq agrégats, eux aussi, sont vides de nature propre. La forme est vide. La vacuité est la forme. La vacuité n'est pas autre que la forme, et la forme n'est pas autre que la vacuité. De même, la sensation, l'identification, les facteurs composés et la conscience sont-ils vides ? Shariputra, ainsi, tous les phénomènes sont-ils vacuités ? Ils sont sans caractéristiques, ils ne naissent ni ne cessent, ne sont ni souillés ni non souillés, ni déficients ni parfaits. En conséquence, Shariputra, dans la vacuité, il n'y a ni forme, ni sensation, ni identification, ni facteur composé, ni conscience. Ni œil, ni oreille, ni nez, ni langue, ni corps, ni mental. Ni forme, ni son, ni odeur, ni saveur, ni objet du toucher, ni phénomène mental. De l'élément de l'œil et ainsi de suite jusqu'à l'élément du mental et l'élément de la conscience du mental, il n'y a pas d'élément. Il n'y a ni ignorance, ni élimination de l'ignorance, et ainsi de suite, et jusqu'à il n'y a ni vieillissement et mort, ni élimination du vieillissement et de la mort. Et à l'avenant, il n'y a ni souffrance, ni origine de la souffrance, ni cessation, ni voie. Il n'y a ni sagesse transcendante, ni obtention, ni non-obtention. Shariputra, ainsi, puisqu'il n'y a pas d'obtention, les bodhisattvas se fondent-ils sur la perfection de la sagesse et ils demeurent en elle, l'esprit sans voile et sans peur. Et comme ils sont passés bien au-delà de toute erreur, ils parviennent au stade final du nirvana. C'est en s'appuyant sur la perfection de la sagesse que tous les bouddhas des trois temps, eux aussi, font naître pleinement l'insurpassable éveil, parfaitement accompli. Aussi le mantra de la perfection de la sagesse, le mantra de la grande connaissance, le mantra auquel rien n'est supérieur, le mantra égal à l'inégalable, le mantra qui apaise à jamais toute souffrance, doit être reconnu comme véridique car il ne trompe pas. Voici le mantra de la perfection de la sagesse. Tayata gate gate paragate parasamgate bodhi soha. Shariputra, c'est ainsi qu'un bodhisattva, mahasattva, doit s'exercer à la profonde perfection de la sagesse. Puis le Bhagavan sortit de sa concentration et loua le bodhisattva, mahasattva, Arya Valokiteshvara en disant « Bien, bien, ô fils de la lignée, il en est ainsi, il en est bien ainsi. C'est exactement comme tu viens de l'exposer qu'il convient de pratiquer la profonde perfection de la sagesse. » Et les bodhisattvas eux-mêmes se réjouissent. Lorsque le Bhagavan eut dit cela, le vénérable Sharadvatiputra, le Bodhisattva Mahasattva Arya Valokiteshvara, l'entourage au complet ainsi que le monde des dieux, des hommes, des Asuras et des Gandharvas furent remplis de joie et louèrent les paroles du Bhagavan. Prière à Dakini au visage de lion. De la sphère sacrée de suprême de Ketchara, vous qui par vos pouvoirs de clairvoyance et d'émanation magique prenez soin des pratiquants comme une mère de ses enfants, devant l'assemblée des Dakini des trois endroits, je me prosterne. Akasamara Sachadara Samarayape. Akasamara Sachadara Samarayape. Tayatam gate gate paragate parasamgate bodhi soa. Par les enseignements des trois nobles rares et sublimes, dotés du pouvoir de la vérité, que les obstacles soient évités, qu'ils soient chassés, qu'ils soient apaisés. Que tous les ennemis et toutes les forces négatives contraires au dharma soient complètement pacifiées. Chantim Kuru Soha. Puisse la multitude des 80 000 obstacles être dissipée, puissions-nous être séparés des conditions adverses au dharma, puissent tous les plaisirs être en accord avec le dharma, puisse le bonheur parfait et tout ce qui est de bon augure régner ici et maintenant. Sur Kant du Mandala, page 98 dans votre livre. Sāshī pūkī jūshīn mētū chārī rālīnshī nye de gyēn pādī sāngyē Maître pur, parfait et saint, des nuages de compassion qui se forment dans l'espace de votre sagesse du Dharmakaya, veuillez répandre une pluie d'enseignements vastes et profonds, conformes exactement aux besoins de vos disciples. Edam Guru Ratna Mandala Kam Niryatayami Sangye Chodan Tsoke Chonam La Jancho Badu Dani Kapsuchi Dagi Chunyen Gipe Tsonam Ki Drola Penche Sangye Drupal Shom En le Bouddha, le Dharma et la Sangha, jusqu'à l'éveil, je prends refuge grâce au mérite accumulé par ma pratique, par l'écoute de l'enseignement. Il faut mettre, au lieu de mettre la générosité, au lieu de, grâce au mérite réuni par l'écoute de l'enseignement, puissais-je devenir un Bouddha afin d'être bénéfique aux êtres. En le Bouddha, le Dharma et la Sangha, jusqu'à l'éveil, je prends refuge. Grâce au mérite réuni par mon écoute de l'enseignement, puissais-je devenir un Bouddha afin d'être bénéfique aux êtres. Bien. Donc, je pensais qu'on allait commencer les 12 liens ce matin. Donc, si vous êtes venus pour ça, vous allez être déçus. Parce qu'on le fera que cet après-midi, parce qu'il y a encore des trucs à mettre avant. Pour l'enseignement sur les 12 liens, il vient vraiment quand on a vu toutes les bases préalables. Donc, on aura plus de temps cet après-midi pour les questions et pour vraiment essayer de comprendre. Donc, je préfère qu'on y consacre plutôt tout l'après-midi que ce qui nous reste de la matinée. Voilà. Donc, on va continuer avec là où on en était. On en était resté à l'ordre dans lequel les perturbations mentales apparaissent. Alors là, il y a deux façons de voir. D'abord, est-ce que d'après vous, l'ignorance et la comment dire? Vous savez, la jikta, la saisie de la collection transitoire, autrement dit, donc la vue des. Du jeu, quoi, autrement dit. Est-ce que c'est la même chose? Est-ce que c'est la même chose? Ma question, c'est est-ce que l'ignorance et la saisie de l'ensemble destructible, autrement dit la saisie du soi personnel, voilà, je ne trouvais pas le mot, est-ce que l'ignorance et la saisie du soi personnel, c'est la même chose? Oui, un peu, oui, je suis d'accord. Mais je préférais une réponse oui ou non. Oui, c'est la même chose. Alors, il y en a qui disent effectivement que oui, c'est la même chose. Il y a deux écoles, on va dire. Il y en a qui disent pour qui c'est la même chose. Pour d'autres qui disent que c'est pas tout à fait la même chose. Donc un peu. Que c'est pas la même chose. Que d'abord, on a l'ignorance qui provoque la saisie du soi personnel. Mais au préalable, il y a cet état d'ignorance. Donc, voilà, on peut voir d'une façon ou d'une autre. Il y en a qui disent que ça revient au même, de toute façon. Ça revient au même. Et ceux qui disent que c'est deux choses différentes, ils prennent comme illustration que l'ignorance, c'est comme l'obscurité, si vous voulez. Vous êtes dans le noir, vous ne voyez pas. C'est la confusion totale, c'est l'ignorance. L'ignorance est souvent associée à un état d'obscurité, de ténèbres. Et dans cette obscurité, vous voyez une corde et vous la prenez pour un serpent. Et donc, au préalable, il y a l'obscurité, il y a l'ignorance. Et dans à cause de cette obscurité, vous vous trompez, en fait. Vous commettez l'erreur de prendre une corde pour un serpent. Et c'est ça la saisie d'un jeu sur les agrégats. Hein, de penser que les agrégats, autrement dit, la corde, sont un jeu, sont un serpent. Et donc, tout le travail va être de mettre suffisamment de lumière pour pouvoir y voir clair et voir effectivement qu'il n'y a pas de serpent, que c'est juste votre imagination qui crée le serpent, hein, mais qu'il n'y a pas de serpent sur cette corde, que c'est une corde, que ce n'est pas un serpent, qu'il n'y en a jamais eu et qu'il n'y en aura jamais. C'est simplement votre imagination, en fait. Hein, c'est une fabrication mentale, le jeu. Au niveau ultime, hein, bien sûr. Donc c'est ça et donc ça c'est la source, hein, c'est la base de toutes les perturbations mentales, que ce soit donc l'ignorance ou que ce soit la saisie du soi personnel, la saisie de l'ensemble destructible. Alors, par contre, par rapport à après, ce qui se passe, donc les deux écoles, donc la première école, donc qui dit que donc c'est l'ignorance qui est en premier, qui est première, met ensuite le doute. S'il y a ignorance, automatiquement il y a doute. Hein, un doute, le doute va surgir. Et, disons, ils prennent comme illustration de la souffrance. Par exemple, on est dans l'ignorance. On ne réalise pas que le samsara est souffrance. Et il y a un doute en se demandant, oui, vraiment, est-ce qu'il y a cette souffrance ou pas? Et après le doute, eux, ils mettent la vue fausse. C'est-à-dire qu'on pense que non, finalement, il n'y a pas de souffrance. Non, il n'y a pas de souffrance. C'est juste une invention. Donc après donc, le doute, ils mettent la vue fausse. Et après la vue fausse, ils mettent la vue de l'ensemble transitoire, la saisie du soi personnel. Et il y a d'abord vue fausse et après ils ajoutent ça. Ils mettent ensuite la saisie du soi personnel qui saisit les agrégats comme un moi et comme un mien. C'est toujours pareil. Ensuite, ils mettent la vue des extrêmes, puisque à partir de ce moment-là, eh bien, on va créer des extrêmes, c'est-à-dire que ce moi auquel on s'identifie, on va le considérer soit comme permanent, soit comme une annihilation, c'est-à-dire qu'après la mort, il ne reste plus rien. Donc, soit comme une âme, si vous voulez, une âme immuable, soit comme quelque chose qui cesse complètement après la mort. Donc ça, c'est la saisie de la vue des extrêmes. Après la vue des extrêmes, ils mettent la vue qui surestime certaines règles et certains ascétismes, hein, parce que ils vont prendre certaines formes d'ascétisme pour une purification, alors que ce n'en est pas une. Ensuite, ils mettent la vue qui surestime ses propres opinions comme étant suprêmes. Et ensuite, ils mettent, alors tout à la fin, ils mettent l'attachement et la colère. Voilà. À cause de ça, donc, naissent l'attachement et la colère. Donc l'attachement, dans cette tradition-là, qui est bouddhiste, hein, cette vue bouddhiste de Vasubandhu, ils mettent l'attachement et la colère complètement à la fin. Dans l'autre école, qui est de Dharmakirti, bon, je vous donne les termes, les noms, mais ce n'est pas forcément utile. En premier, c'est la vue donc, de la saisie du soi personnel, qui pour eux est l'ignorance, c'est la même chose. Hein, ignorance ou vue de la saisie du soi personnel, c'est exactement la même chose, qui appréhende le soi. Hein, et à partir de cette appréhension d'un soi, il y a automatiquement une discrimination entre soi et l'autre, et les autres. Hein, il y a une dualité. Qui est créé. Et à ce moment-là, puisqu'il y a cette dualité, il va y avoir attachement ou aversion. Donc ça vient tout de suite pour eux, l'attachement et l'aversion. C'est-à-dire que en saisissant un soi, votre esprit va tendre soit dans l'aversion pour protéger ce soi, ou dans l'attachement aussi pour le protéger, dans les deux cas. Donc, et après, il y a les vues extrêmes. Après, ils mettent les vues extrêmes. Ils mettent la vue qui surestime donc ses propres opinions comme suprêmes, la surestimation de l'ascétisme. Ils mettent toutes les autres. Ils mettent le doute après en dernier, je pense. Oui, ils mettent le doute en dernier. Voilà. Donc, à vous de voir comment ce que vous préférez. Les deux sont possibles. Le Matson Kappa qu'on suit donc dans cette tradition, lui, il a plutôt développé, expliqué la deuxième façon de voir. D'abord donc, à partir du moment où il y a ignorance, il y a tout de suite une distinction qui crée de l'attachement et qui crée de l'aversion. Voilà. Et après naît justement l'orgueil. Oui, j'ai oublié l'orgueil, pardon. Juste après l'orgueil. L'orgueil vient après l'attachement et l'hostilité et l'aversion. Ouais, c'est bon, son cas pas. Voilà, donc voilà pour l'ordre d'apparition des perturbations mentales selon ces deux écoles. Donc ensuite, ce qu'on doit voir, c'est justement les facteurs, on n'a pas vu, oui, les facteurs qui font apparaître, c'est très important, les perturbations mentales. Les six causes des perturbations mentales. Les six facteurs principaux qui font apparaître, oui, la manifestation des perturbations mentales dans notre esprit. C'est ça la question. C'est répondre à la question pourquoi ces perturbations mentales apparaissent, hein, et comment est-ce qu'elles apparaissent. Donc c'est intéressant de voir. Donc on nous donne six causes. La première, pourquoi les perturbations mentales apparaissent, c'est parce qu'il y a des graines. S'il n'y avait pas des graines, elles n'apparaîtraient pas. Elles n'apparaissent pas tout le temps. Hein. Donc ça, c'est la cause principale. Il y a des graines latentes qui sont dans notre courant de conscience. On n'est pas toujours en colère, on n'est pas toujours en train dans l'attachement, mais ça apparaît parfois. Ça veut dire que chaque fois que ça apparaît, ça nous montre qu'en fait, quand la colère qui surgit, ça veut dire qu'on n'a pas éliminé la colère. Ça veut dire que la colère est toujours là dans notre esprit. Voilà. Donc c'est ça l'idée, en fait, que c'est, en fait, ces graines, elles restent dans notre courant de conscience de vie en vie, en fait. Et c'est ça quand on pratique les purifications, c'est ça qu'on essaye d'éliminer. Mais c'est assez difficile. Hein. Ça disparaît pas tout seul comme ça. Donc ces graines restent dans notre courant de conscience de vie en vie. Elles passent d'une vie à la suivante. Et donc, si on ne fait rien, ben, ça continue. Et c'est ça qui crée le samsara. Si bien qu'on n'est jamais libre de ces perturbations mentales. Elles vont toujours apparaître. Et pourquoi elles apparaissent ? Ben parce qu'il y a un facteur extérieur qui va les stimuler, bien sûr. Donc dès qu'il y a un facteur externe qui apparaît, qui surgit, ça peut être aussi un facteur interne, bien sûr, pas forcément externe. Ça va stimuler ces graines et ça va donner lieu à l'apparition donc, des perturbations mentales. Donc ces graines, ces perturbations se manifestent occasionnellement, hein, quand on rencontre les conditions propices. Voilà. Et donc ça veut dire que certaines perturbations, elles sont manifestes dans la conscience, elles apparaissent, elles se manifestent, et d'autres sont latentes. Donc il y a une distinction entre des perturbations manifestes et des perturbations latentes. Les latentes se manifestent si tu rencontres les conditions internes ou externes. Voilà, c'est ça. Donc, alors, quand on fait les pratiques de Vajrasattva, comme ça, on ne touche pas vraiment les graines. On élimine certains facteurs qui vont faire apparaître des perturbations mentales. Mais pour vraiment éliminer les graines des perturbations mentales, on commence à les éliminer quand on a réalisé la vacuité, c'est-à-dire sur le chemin de la vision. Là, vous commencez à purifier les graines des perturbations mentales. C'est ça que vous éliminez. Les pratiques de purification, elles sont très bien, mais tant qu'on a paralysé la vacuité, elles ne donnent pas leur plein effet. C'est sûr qu'elles ont déjà un effet, parce qu'elles vont éliminer certains effets négatifs, disons, des perturbations mentales. Mais elles ne vont pas éliminer les graines. Donc ça agit un peu sur la surface, on va dire. Mais ça n'agit pas en profondeur. Enfin, ça agit un peu en profondeur, si, quand même, mais ça n'élimine pas. Voilà, c'est ce que je veux dire, pardon. Ça ne les purifie pas totalement. Donc on commence à les purifier vraiment profondément quand on a réalisé la vacuité, c'est-à-dire sur le chemin de la vision. Et on va les purifier de la première terre jusqu'à la huitième terre. Je vous ai dit hier qu'il y avait 10 terres hein, avant d'être Bouddha, sur la voie de la méditation. Donc après la voie de la vision, on rentre sur la voie de la méditation où on s'habitue à cette réalisation de la vacuité que l'on a obtenue. Et là, à chaque fois que vous méditez, avec une compréhension de la vacuité, vous éliminez des perturbations mentales, des graines des perturbations mentales, jusqu'à la huitième. Et donc à la huitième, vous avez éliminé toutes les graines des perturbations mentales, grossières et subtiles, mais il reste des facteurs disons, qui sont plus des graines, qui ne sont pas au niveau émotionnel, mais qui sont plus au niveau cognitif. Il y a encore des relents de perturbations mentales et aussi des facteurs cognitifs qui vous empêchent de vraiment être totalement éveillé. Et c'est de la 8e à la 10e terre que vous éliminez ces... ce n'est pas des perturbations mentales, c'est des voiles, on va dire, oui, des voiles, des obscurcissements qui empêchent l'omniscience, on dit. Hein? Les perturbations mentales, elles empêchent la libération et les voiles à l'omniscience empêchent l'omniscience. Hein? C'est-à-dire le voile cognitif empêche l'omniscience, le voile émotionnel empêche la libération. C'est clair ? Voilà. Et donc ça, le voile cognitif vraiment subtil, c'est de la 8e à la 10e terre. Et là, vous devenez, quand vous avez terminé la 10e terre, vous passez, quand vous arrivez à la fin de la 10e terre, vous devenez Bouddha. C'est-à-dire que vous avez éliminé toutes les perturbations mentales et vous avez éliminé tous les voiles cognitifs. Voilà. Et vous êtes un Bouddha. Un arhat, qu'est-ce que c'est ? Quand on parle d'un arhat, un arhat, c'est un être qui n'a pas suivi la voie des bodhisattvas, hein, mais qui a éliminé toutes les perturbations mentales. Donc c'est un être extrêmement avancé, hein, mais il n'est pas Bouddha. Hein. Il est arhat, il n'a pas éliminé le voile cognitif. Tout ça. Donc il ne peut pas. Il n'a pas développé la compassion. Il n'a pas suffisamment... Enfin, il a de la compassion, certes. Hein, on ne peut pas dire qu'il n'en a pas. Mais il n'a pas... Ce n'est pas sa voie. Hein. Et donc, il ne s'entraîne pas pour devenir Bouddha. Il s'entraîne uniquement pour réaliser le nirvana, pour atteindre le nirvana. Donc, il devient narrat, il élimine les perturbations mentales, il atteint le nirvana et il a éliminé toutes ces perturbations mentales. Est-ce qu'un Bouddha est un arhat ? Eh oui, exactement. C'est pour ça que quand on dit la prière, vous voyez, quand on fait l'éloge du Bouddha, on l'appelle arhat. Et on dit le Bouddha effectivement est un arhat, mais il est plus que ça, exactement. Il est, tandis qu'un arhat est simplement un arhat. Est-ce qu'un bodhisattva est un arhat ? Non. Vous voyez la différence ? Un Bouddha est forcément un arhat, puisqu'il a éliminé les perturbations mentales. Un bodhisattva sur la première terre... Non, pardon, je ne suis pas allé jusqu'où. Un bodhisattva sur la première terre, c'est-à-dire sur la voie de vision, quand il a réalisé la voie de vision, est-ce qu'il est arhat ? Non. Il est bodhisattva. Quand il est à la 8e terre, est-ce qu'il est arhat ? Oui. OK ? Voilà. Vous avez compris. Très bien. C'est pas forcément facile à comprendre, mais la différence quand même. Et qu'est-ce que c'est qu'un aria ? Oui, j'ai oublié celui-là aussi. Je me disais, c'est bizarre qu'ils aient tout compris. Quand même. Ils sont vraiment intelligents. Hein ? Voilà. Est-ce qu'un aria est un arhat ? Non, pas du tout. Un arya a simplement la réalisation directe de la vacuité. Mais il n'a pas éliminé toutes les perturbations mentales. Il n'est pas arhat. Alors, c'est ce qu'on appelle un arya bodhisattva. Oui. Un arya bodhisattva, c'est un bodhisattva qui a réalisé la vacuité directement, mais qui est sur la voie pour devenir Bouddha. Il n'est pas sur la voie pour devenir arhat. Hein ? Il y a deux voies. Soit on va direction la libération pour devenir arhat, soit on va dans la direction pour devenir Bouddha. Nous, on est dans quelle direction, nous ? Bodhisattva, donc pour devenir Bouddha. Hein ? C'est ça. Attends, un peu de discipline. Prenez le micro. Aujourd'hui, je vais être très strict. J'ai décidé. Bon, c'est 10h, 11h moins 10. À midi, je serai moins...
Oui, mais est-ce qu'il ne faut pas d'abord être arhat pour être Bouddha ? Et non ?
Alors, qu'est-ce que vous répondez à cette question ?
Oui, tu viens de le dire.
Est-ce qu'il faut d'abord être arhat pour devenir Bouddha ?
Est-ce qu'il ne faut pas réaliser...
Pas forcément.
...avoir supprimé les perturbations mentales pas avant de devenir Bouddha ?
Oui, mais
la motivation. La motivation.
La motivation. Elle n'est pas la même. Un Bouddha, il est forcément arhat, mais il n'a pas la motivation d'être arhat. Voilà.
Motivation plus élevée.
Oui, ça motive. Donc nous, on est sur la voie des bodhisattvas pour atteindre l'éveil. On n'est pas sur la voie de la simple libération. Donc quand on parle du nirvana, on peut l'entendre dans un double sens. On peut l'entendre comme le nirvana d'un arhat qui a atteint la libération du samsara, mais aussi on peut l'entendre dans le sens du nirvana d'un Bouddha. On parle du nirvana comme étant l'éveil d'un Bouddha. Parfois, c'est dit comme ça. Et parfois, c'est simplement l'état d'un arhat. On parle aussi du nirvana naturel. Et là, je vous en parlerai peut-être cet après-midi, pour terminer. Le nirvana naturel, c'est la nature de notre esprit. On en parlera. Non, je ne veux pas rentrer dans le nirvana naturel. Là, on parle simplement du nirvana, du terme nirvana, qui dans un cas peut vouloir simplement dire l'état d'un arhat qui a réalisé le nirvana ou d'un Bouddha qui a réalisé le nirvana complet, le plein nirvana, si vous voulez. Voilà. Vas-y.
Est-ce que la méditation de clair-lumière permet...
C'est quoi la méditation de clair-lumière?
Je me trompe peut-être de nom.
Je ne sais pas. Il faut peut-être définir.
La partie intermédiaire de la mort.
Oui, oui.
Permet d'effacer les dernières perturbations mentales.
Oui. Oui.
Mais toutes ou...
ça dépend de vous. Voilà, ça dépend de ce qui se passe à ce moment-là.
D'accord, mais c'est normalement
possible. C'est possible.
Un nettoyage ultime.
Karcher.
D'accord.
C'est possible, ça dépend de vous. Ça dépend de ce qui se passe à ce moment-là. Ouais. Donc, on n'a pas fini avec l'aria, si ? On avait dit, vous avez compris l'aria ? La différence entre aria, arhat, bouddha ? Donc un aria, c'est quelqu'un qui a réalisé directement la vacuité, mais qui n'a pas éliminé toutes les perturbations mentales, donc il n'est pas arhat. Ok. Est-ce qu'un Bouddha est un Arya?
Il est tout, Bouddha, il est tout.
Il est tout, oui. Il est tout. D'accord. Donc un Bouddha est aussi un Arya. Il a réalisé, bien sûr. Une question, pardon.
Oui. Le Bodhisattva n'existe que dans la tradition Mahayana.
Oui, bien sûr.
D'accord.
C'est ça. Ouais. Ouais. Donc... Donc l'arhat, est-ce qu'il est arrivé à son but? Oui. Pour lui, oui. Pour un Bouddha, non. Donc que va faire un Bouddha? Il va le secouer. Il va lui dire, mon gars, c'est bien, t'es bénéfique certainement à toi-même, un peu, pas complètement, tu pourrais l'être encore plus si tu devenais Bouddha. Et il va lui dire, continue. Il va le réveiller un petit peu parce qu'il est dans un état un petit peu de paix, d'apaisement, où il est bien, bien content, très content même, d'apaisement total, et il ne cherche pas à aller plus loin. Mais il n'est pas, aux yeux d'un Bouddha, il n'est pas complètement bénéfique aux autres, même pas du tout.
Mais enfin, un peu, qu'il devient
moins... Un petit peu, et il est un petit peu bénéfique aux autres, il est même pas mal, mais pas complètement. Et il n'est pas complètement bénéfique à lui-même, puisqu'il n'a pas éliminé les derniers voiles, les voiles cognitifs. Donc il n'est pas encore dans un état de plénitude comme l'est un Bouddha. Et il ne peut pas être vraiment bénéfique aux autres parce que... Pourquoi il ne peut pas être complètement bénéfique aux autres?
Parce que c'est égoïste, c'est pour lui-même qu'il veut avoir la paix.
Pourquoi il est... Oui, il y a un aspect de motivation personnelle, c'est ça. Il est déjà très imprégné par cette motivation personnelle qui l'a guidé, qui était sa motivation pendant toute la voie. Donc il est quand même... On peut dire qu'il a des grosses tendances karmiques, disons, à cause de ça. Qu'il a
Mais en même temps, s'il n'a pas de perturbation mentale, au moins, il n'emmerde pas les autres. C'est déjà une grande chose. Excusez-moi du mot.
Il va falloir t'inscrire au PEBA si tu veux poser des questions. Hein. Ah ouais. Bon. Non, bientôt. Oui, pardon.
Oui, est-ce que un bodhisattva est forcément un arya?
Est-ce qu'un bodhisattva est forcément un arya? Ah oui, bonne question. Est-ce qu'un bodhisattva est forcément un arya? Qu'est-ce que vous en dites? Non? Est-ce qu'il y en a qui disent oui? Hein? Un bodhisattva a réalisé la vacuité? Non, pas forcément.
Non.
Il peut la réaliser. Il peut réaliser d'abord bodhicitta. Un bodhisattva, c'est quelqu'un qui a... Qu'est-ce que c'est qu'un bodhisattva? C'est quelqu'un qui a réalisé la bodhicitta, c'est-à-dire quoi? Ça veut dire qu'il y a la bodhicitta dans son continuum mental de manière naturelle. Pas de manière naturelle. Il l'a développée. Hein, elle n'est pas venue toute seule. Mais il l'a constamment. Il a constamment ce désir d'atteindre l'éveil pour le bien de tous les êtres. Pas besoin d'avoir réalisé la vacuité pour ça. Mais et donc là, il entre sur le chemin, premier chemin de la préparation, avec cette motivation, cette bodhicitta non artificielle. Si on a une bodhicitta artificielle, on la régénère chaque fois, on la recrée, hein, on dit des prières, c'est artificiel. Au moment où on y pense, on l'a. Hein. Mais après, on va faire des tas de choses, on l'oublie. Le bodhisattva, non, il ne l'oublie pas. Il a 24 heures sur 24, il dort avec, il fait tout avec ça. Hein. Et donc là, il entre sur le chemin de la préparation. Et là, il va méditer sur Shiné, Laktong, tout ça, nanana. Il rentre sur le chemin de l'accumulation, ouais, et après sur le chemin de la préparation. Et il faut qu'il médite sur la vacuité. Sur le chemin de l'accumulation et de la préparation, il va s'entraîner à méditer sur la vacuité. Il va se rapprocher de plus en plus. Et là, il va réaliser la vacuité directement. Et il entrera sur le chemin de la vision. Ou alors, il peut y avoir un autre cas de figure, ou alors, c'est un bodhisattva qui réalise la vacuité d'abord et qui après développe bodhicitta. Donc, ça dépend. Voilà. Ça dépend. Donc, un bodhisattva n'a pas forcément la réalisation de la vacuité directe. Il en a une très. Voilà. Mais il peut l'avoir ou pas. Voilà. Donc, c'est pour répondre à ta question.
Oui, j'avais une dernière question, c'était par rapport aux graines. Parce que tu dis qu'elles ne s'éliminent jamais alors. Parce que parfois, on a l'impression qu'on a dépassé certaines choses dans la vie.
C'est là où on voit. On pense qu'on a éliminé certaines perturbations mentales, qu'on ne les a plus. Mmh. Tout simplement parce qu'on ne rencontre pas les conditions qui les font apparaître. Il suffit que tu rentres une certaine condition, que tu rencontres quelque chose ou quelqu'un qui te...
Comme ça. Même si on pense qu'on a compris
ça ne sera pas toujours comme ça. Non. Quand tu auras réalisé la vacuité, tu vas éliminer les graines.
Si par exemple...
Tant que tu n'auras pas réalisé la vacuité...
Jamais.
Non. C'est pour ça qu'il faut réaliser la vacuité.
Si par exemple on a été assassin, on vivra des choses de... assassin jusqu'à la fin, jusqu'à qu'on a... Même si on passe sans vie, sans tuer, ni rien, ça reviendra tôt ou tard. On le nettoie jamais.
C'est avec la réalisation de la vacuité, tu le nettoies. Okay. Si. Sans la réalisation de la vacuité, il y aura toujours des choses qui vont rester. Prends le micro.
Ça veut dire que dans cette vie, par exemple, elle ne va pas être assassin, mais du coup, elle ne sait pas qu'elle a ses graines d'assassin. Voilà. Et dans la vie d'après, si jamais elle rencontre le truc...
C'est pour ça que je voulais qu'on parle de ça ce matin, avant de parler des 12 liens, parce que justement, les 12 liens vont expliquer un petit peu tout ça, ce qui se passe. Comment on recrée le samsara. Mais il faut que ça soit bien, bien clair tout ça. Donc ces graines, effectivement, il y a des graines latentes qui se manifestent ou qui ne se manifestent. Et on ne sait pas dans notre courant de conscience quelles graines sont latentes. On a été des assassins dans nos vies, dans toutes nos vies antérieures, c'est obligé. Hein. Dans cette vie, on ne l'est pas. Mais je ne sais pas, il peut très bien y avoir des conditions environnantes qui font que ça peut se révéler.
Donc du coup, on est passé par tous les états de perturbations mentales dans nos vies.
Exactement. On a toutes les perturbations mentales. On a fait toutes les actions négatives possibles et imaginables. On a tout ça. Voilà. Bon, je vais continuer parce qu'on ne va jamais y arriver. Ne posez plus de questions, s'il vous plaît, pendant, on va dire, une demi-heure. Je voudrais aller au bout de mes 6 points, de mes 6 causes des perturbations mentales. Donc ça, c'était le plus important. C'est normal qu'il y ait des questions là-dessus. Donc la deuxième cause des perturbations mentales, ben, vous l'avez déjà compris, c'est le contact avec certains objets, la rencontre de certains objets qui vont stimuler une perturbation mentale, qui va la faire apparaître comme une éruption. Tout d'un coup, il y a une perturbation mentale qui s'élève. Et si on voit par exemple de la bonne nourriture, des bons chocolats, ça va générer de l'attachement. Si on voit quelqu'un qui nous plaît beaucoup, ça va développer de l'attachement. Donc c'est la vision de cet objet, de cette personne qui va développer, qui va faire apparaître soit l'attachement, soit la colère. Si nous sommes en présence de personnes avec qui on n'est pas d'accord avec leurs idées, par exemple, ou leurs opinions, tout de suite, on va vouloir. Il y a une colère qui va apparaître. On va vouloir défendre ses idées, ses opinions, simplement à la vue de cette personne et des opinions qu'elle. Donc ça, c'est le deuxième point, la deuxième cause qui fait apparaître les perturbations mentales, qu'on le veuille ou non, c'est cet objet. Et parfois, un simple souvenir peut faire apparaître une perturbation mentale. Il n'est pas obligé que l'objet soit là physiquement en face de vous. Il peut être là présent mentalement. Le fait de penser à cet objet ou à cette personne va susciter de l'attachement, va faire surgir la colère ou l'attachement. Son souvenir. Donc tout ça, nous avons, en tant que débutants, nous avons donc toutes ces causes, toutes ces conditions en fait dans notre esprit pour que ces perturbations mentales apparaissent. Donc pour éviter qu'elles apparaissent, un conseil qui est souvent donné, c'est d'éviter l'objet en question, puisqu'on a ces perturbations mentales. Si on est sage et si on est si on est suffisamment sage, on va se dire je connais bien ce problème, je vais éviter l'objet. Et donc, en évitant l'objet, forcément, la perturbation mentale va diminuer, puisqu'il n'y aura pas ce facteur déclenchant en face. On va certes y penser, peut-être, ça va peut-être venir dans nos souvenirs, mais c'est moins fort que quand la personne ou quand l'objet est directement en face de soi. Il y a une attraction ou une répulsion évidente qui se manifeste à ce moment-là. Donc c'est souvent un bon conseil qui est donné. Donc même si ça peut paraître dur ou on peut se dire mais non, je vais arriver à surmonter mes tendances, souvent c'est pas possible quoi, parce que l'attraction ou la répulsion que provoque cet objet est extrêmement forte. Peut-être à cause de liens karmiques ou de choses comme ça, certainement. Mais. Donc ça peut être une bonne méthode pour éviter de faire surgir les perturbations mentales que d'éviter l'objet en question. Ça, c'était le deuxième, donc la conception, l'objet. Oui. Le troisième, les ordres sont différents. Il y a plusieurs. Le troisième, c'est les influences, les mauvaises influences, les influences négatives. Des gens avec qui nous influencent, qui ont une forte influence sur nous, qui ont une influence sur notre comportement, qui ont une influence sur notre façon de penser. Ça peut être il y a des gens qui ont une influence sur les autres, ça aussi c'est karmique. Certaines personnes ont de l'influence sur nous, d'autres n'en ont pas. D'où ça vient, certainement des karmas. Par exemple, on peut aussi ressentir ces influences donc, au niveau social. On peut, par exemple, dans certains cas, pour se conformer à un certain groupe de personnes, on va essayer peut-être de cacher ses émotions, de cacher ses. Ses croyances, par exemple, ou son. Pour être normal, on va dire, pour être bien vu par certaines personnes ou accepté par d'autres, pour ne pas passer pour quelqu'un d'étrange ou de bizarre, on va essayer de masquer ou de ne pas parler de certaines choses. quitte à se compromettre. Hein. Si on est bouddhiste, par exemple, et qu'on ne veut pas que ça se sache, par exemple, et ben on va essayer de cacher, on va faire comme les collègues, on va aller au bistrot, on va aller boire des bières, et, alors qu'on ne devrait pas, normalement. Mais on subit cette influence parce qu'on veut, on veut faire partie du groupe, quoi. Et donc, il y a une espèce de compromission, là, justement, où on va aller à l'encontre de nos croyances et de ce que, même de nos vœux, peut-être, justement, juste pour être en accord avec une façon de se comporter socialement. Hein. Donc, ça, on peut le voir. Donc, les influences vont faire. Naître par exemple de la colère si par exemple un membre de notre famille a certaines opinions contre lesquelles on n'est pas d'accord par exemple, ben, ça va aussitôt et si cette personne a une influence sur nous, hein, par exemple, on va peut-être se ranger dans l'opinion de cette personne alors que ça va contre nos idées, par exemple nos idées bouddhistes, par exemple, tout ça, ou parce qu'on est attaché à une personne, ben on va épouser sa façon de voir alors que ce n'est pas forcément la nôtre. Donc ça va avoir une influence sur nos perturbations mentales. L'attachement peut nous amener à ce genre de choses. Et donc, voilà. Donc ça, c'est donc toutes les influences qui sont, on va dire, négatives. Hein, mauvaises influences. Toute forme d'interaction sociale avec des gens qui sont contraires à à notre pratique. Ou à la façon dont on veut mener notre vie. Donc ça peut avoir une grosse importance. Après, il y a le quatrième facteur, c'est les stimuli. Alors le texte dit tout ce qui est au niveau verbal. Mais là, c'est beaucoup. Bon, à l'époque, c'était uniquement verbal, mais maintenant, ça va beaucoup plus loin que ça. Et donc, c'est tout ce qui est tout ce qui existe. Tout ce qui exerce sur notre esprit un stimulus un peu fort, comme les médias, par exemple. L'influence des médias, l'influence des infos, la télé, des livres, Internet, radio, magazine, etc. Les films, voilà, tous les réseaux sociaux, tout ça, qui exerce une influence de manière un peu de manière directe ou indirecte, hein, qui ont un impact, en tout cas, sur nos pensées, sur nos émotions aussi. Plus on va donc être en contact avec certains réseaux, certains médias, plus ça va faire surgir donc des émotions. Donc il y a comme une espèce de conditionnement, hein, dû aux médias qui est dans notre vie. Si on est très exposé, par exemple, à ces influences médiatiques, ça va forcément avoir une influence sur les perturbations mentales. Ça va faire apparaître plus de perturbations mentales. Et quand on regarde comment fonctionne notre société, où on est bombardé quand même d'images qui sont soit liées au sexe, soit liées à la violence, c'est pas étonnant que dans notre société, il y a beaucoup d'attachement, il y a beaucoup de colère. Hein. Ça a certainement une grande influence au niveau subconscient, hein, tout ça. Et les enfants, malheureusement, commencent très jeunes à être bombardés par toutes sortes d'images, justement, qui ont un impact sur leur. Et plus on est, plus la fréquence est grande, bien sûr, plus ça a de l'influence. Donc ça, c'est un effet, voilà, sur les perturbations mentales. Donc c'était le quatrième, je ne sais plus, le troisième, quatrième. Ensuite. Qu'est-ce qu'il y a ? Il y a l'accoutumance. Ouais. L'accoutumance. L'habitude. Hein ? L'habitude fait surgir les perturbations mentales plus facilement. Plus on est habitué à certaines, à la colère, par exemple, bah plus ça va surgir. Hein ? C'est pour ça que plus on va s'habituer à la pratique du dharma, et bah moins les perturbations mentales vont surgir, puisque ça va créer une accoutumance inverse. Hein ? Et ça permet aussi de voir quel est l'impact du dharma dans notre vie. Est-ce qu'on est plus accoutumé aux émotions négatives ou est-ce qu'on est plus accoutumé au dharma ? Et donc, là, au début, c'est normal, les perturbations mentales sont très très fortes, ont une très grande influence sur notre esprit, mais plus on va pratiquer, ça va faire comme les plateaux d'une balance, comme disent les Tibétains, ça va s'inverser. L'accoutumance qu'on va prendre à la pratique va faire que les perturbations mentales vont se réduire. C'est le but donc de l'accoutumance. Donc pourquoi elles surgissent, ces perturbations mentales? C'est parce qu'on y est habitué. On est habitué à les laisser surgir. À partir du moment où on les considère comme des ennemis, eh bien, on va avoir moins tendance à les laisser surgir. Et c'est ça, s'accoutumer au dharma, c'est ça. Ça veut dire voir ces perturbations mentales comme des ennemis et prendre l'habitude, prendre l'entraînement de les éradiquer dès qu'elles surgissent. Il y a une strophe justement dans les huit versets, qui la troisième strophe, qui dit « Dès que je verrai apparaître une perturbation mentale dans mon esprit, je l'éliminerai tout de suite. » Parce que plus, c'est comme l'herbe. Quand l'herbe est très haute, c'est difficile à couper. Quand elle est petite, c'est beaucoup plus facile à couper. Et donc il y a cette strophe qui dit qui sont un encouragement à éliminer les perturbations mentales dès qu'on les voit apparaître, pour pas que ça devienne des habitudes, justement. Voilà. Donc, les perturbations mentales on est accoutumé aux perturbations mentales parce qu'on les a entretenues. Et on les a entretenues sur la base du jeu, qui est par l'attachement au jeu, par l'aversion à tout ce qui est nuisible au jeu. C'est ça qui a permis. Et donc, la pratique du dharma va créer un déconditionnement par rapport à ces habitudes, en créant justement de nouvelles habitudes. Et ça va être justement le but donc de la pratique. Parce que on peut pas supprimer les perturbations mentales en les laissant faire. On a un peu cette attitude qu'on laisse surgir tout ça et puis on dit quand il n'y en aura plus, il n'y en aura plus, ça va s'éliminer. Mais si on les laisse faire, si on leur lâche la bride, autrement dit, elles vont continuer. C'est comme un animal sauvage. Et le but du dharma, c'est un peu de serrer la bride au début, la serrer un peu fort, et puis après, on peut la serrer de moins en moins fort. Mais jamais on ne pourra les supprimer en les laissant faire. Et donc, c'est le but, c'est de les dissoudre, de la manière à l'aide du dharma. D'où viennent ces perturbations mentales? Elles viennent de notre esprit. Elles surgissent comme des pensées, comme des fortes pensées, des émotions très fortes, qui apparaissent d'où? De la nature de notre esprit, quelque part, de notre esprit. Et si le but, c'est de les dissoudre, justement dans leur source originelle, on va dire, qui est la nature de leur esprit. Et c'est là où si on a réalisé la vacuité, eh bien on voit que ces perturbations mentales en fait n'ont pas d'existence propre. Elles naissent de la vacuité et elles retournent dans la vacuité. Et là on n'est pas perturbé par ces perturbations mentales, puisqu'on voit on voit leur émergence et on voit en même temps leur dissolution. Bon, ça c'est un niveau très élevé. Évidemment. Mais c'est l'idée, en fait. Oui. Puisque tout est vide d'existence propre, les perturbations mentales, elles le sont aussi, forcément. Mais nous, puisqu'on donne une réalité à tout, depuis le jeu jusqu'à n'importe quoi, et bien forcément, on donne une réalité à ces perturbations mentales. Donc, la méditation sur la vacuité va aussi nous aider à ça, à voir que, elles sont rien, quoi, en fait. Et donc, on va les dissoudre comme ça dans leur source originelle. On va se désaccoutumer, en fait, de ces perturbations mentales. Et donc là, mais là, on n'en est pas là encore. Là, on en est juste au stade où on voit où on comprend que plus on suit les perturbations mentales, plus on va souffrir. Déjà, c'est super. Si on comprend ça et si on est sûr de ça, si on a gagné une certitude par rapport à ça, que plus on va suivre les perturbations mentales et plus on va souffrir, eh ben, automatiquement, il y a une désaccoutumance qui va avoir lieu. La désaccoutumance, voilà. Et la dernière, je crois que c'est la dernière maintenant, c'est ce qu'on appelle, plusieurs termes, la conception erronée ou l'attention. On trouve ce terme, l'attention inappropriée. Inapproprié, ouais. Attention inappropriée. Ou, ouais. Ça veut dire, en fait, c'est ce qu'on avait dit hier, en fait, c'est le fait de penser qu'en fait, notre perception des choses est erronée parce qu'on est trop attaché à l'apparence des choses. On juge les choses d'après leur apparence. C'est-à-dire qu'on ne remet pas forcément en question notre perception des choses. On pense que nos perceptions sont justes, autrement dit. On a cette croyance, cette certitude que parce qu'on le perçoit comme ça, c'est forcément juste. Et donc c'est ça qu'il faut mettre, c'est ça qui fait apparaître aussi des perturbations mentales, parce qu'on est persuadé qu'on est dans le juste, qu'on est dans le vrai, en se mettant en colère pratiquement. Qu'il faut qu'on se mette en colère à ce moment-là. Ou que l'attachement va nous procurer du plaisir. Parce que cet objet paraît extrêmement désirable. Il exerce une forte pression sur notre esprit. Et en le suivant, on va être heureux. Donc c'est ça qu'il faut mettre en doute. Ce n'est pas parce que l'apparence est agréable et belle que ça va nous amener du bonheur. Okay. Et donc c'est... le Dalai Lama en parle souvent de ça, justement, que nos perceptions en fait sont pas forcément justes. Elles peuvent l'être, bien sûr. Je dis pas que toutes nos perceptions. Bon, on va dire oui et non. Dans la mesure où on n'a pas réalisé la vacuité, nos perceptions sont fausses. Oui, d'accord. Ultimement, oui. Mais conventionnellement, si on voit un serpent ou si on voit une corde, voilà, on va être capable de voir la différence. Hein. Donc à un moment donné, au début, on peut être trompé par l'apparence, justement, mais en se rapprochant, ou en éclairant la lumière, ou ce que vous voulez, en utilisant notre intelligence, on va dire, en éclairant ou en se rapprochant, on va voir la réalité de l'objet. Et c'est ça, en fait, en quoi consiste la méditation ou la sagesse, c'est-à-dire se rapprocher de plus en plus de l'objet pour pouvoir le voir tel qu'il est. Donc conventionnellement, on a des perceptions justes, hein, c'est sûr. Ultimement, non. Ultimement, on peut dire que toutes nos perceptions sont fausses. Puisqu'on y est. Voilà. Mais conventionnellement, non. C'est pas comme ça. Donc ça part du principe que l'apparence, elle est toujours quelque part, elle est, enfin, toujours, pas forcément, mais en général exagérée. Hein. Exagération des défauts qui amènent la colère ou exagération des qualités qui amènent l'attachement. Donc, c'est ce qu'on disait hier. Donc, cette conception erronée, il faut être capable de l'apercevoir, puisque c'est elle qui va déclencher, hein, cette conception erronée, va déclencher l'attachement, elle va déclencher la jalousie, elle va déclencher plein de choses. Hein. Donc, en fait, ça revient à quoi ? Ce que le conseil, oui, je peux terminer tout à l'heure, ce que le Dalai Lama nous conseille, c'est de mettre en doute la validité, en fait, de nos pensées. Et ça, c'est indispensable dans la pratique. C'est de ne pas accepter nos pensées ou nos jugements pour ce qu'ils sont. Parce que nos jugements sont trop influencés par les apparences. Donc, il faut en quelque sorte, donc, mettre en doute la validité de nos pensées. Quelqu'un peut nous apparaître extrêmement inintéressant ou, je ne sais pas, dangereux même. Alors, nous apparaître comme un ennemi, alors que il peut très bien se transformer en ami, hein, si on le perçoit différemment. Ça peut très souvent arriver de voir une personne arriver, d'avoir un jugement par rapport à cette personne, un jugement négatif ou défavorable, disons, et que cette personne après devienne un grand ami. Hein. Alors que la première impression, si on reste sur cette première impression, on va l'entretenir. On va dire, on va voir que les défauts. Parce qu'on va se focaliser sur les défauts. Mais si jamais on met en doute sa propre perception en essayant de voir des qualités, par exemple, chez cette personne, eh ben on va voir de plus en plus de qualités. Et notre perception va changer. Donc c'est ça qui fait apparaître donc ces perceptions, ces perturbations mentales. C'est les conceptions erronées que nous avons. Pourquoi on appelle ça attention inappropriée ? Inappropriée veut dire qu'au lieu de se concentrer sur les qualités, hein, de cette personne, on va se concentrer sur les défauts. Donc c'est quelque chose d'inapproprié. C'est une attention qui est fausse et qui nous emmène dans le sillage des perturbations mentales. Hein. C'est pour ça qu'elle est inappropriée. Si on se concentre sur la qualité, ça va être approprié et ça va nous amener plus de compassion, plus de bienveillance, plus d'amitié, etc. Et nous amener vers les valeurs beaucoup plus positives. Voilà. Donc, face aux apparences aussi, se rappeler que toutes nos perceptions, en fait, sont karmiques. Hein ? Toutes nos perceptions sont karmiques. Nos façons, nos jugements sont karmiques. Donc, que tous les problèmes, en fait, que l'on se crée, en fait, viennent de notre perception des choses et donc viennent de notre karma. Donc, c'est ça qu'il faut essayer de... C'est le raisonnement qu'il faut avoir pour éviter justement que ces perturbations mentales apparaissent. Donc chaque fois qu'on est en présence de ces perturbations mentales, c'est de voir pourquoi elles sont apparues. Quelle est la cause ? Donc bien sûr, les tendances, etc. Et après, donc, quand on est sur son coussin, réfléchir, méditer là-dessus pour essayer de diminuer ces influences. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ces 6 causes ? Oui. Le micro. Au fond.
Tout à l'heure, je voulais poser une question.
Oui.
Quand tu as dit l'atteinte de la vacuité, moi je pensais que quand on avait atteint la vacuité, on avait éliminé toutes les perturbations mentales.
On commence à les éliminer. On en élimine certaines, oui, mais pas toutes.
Et donc, on atteint la vacuité à quelle terre de Bouddha ?
Première terre.
La première terre.
La réalisation directe de la vacuité fait coïncider le chemin de vision et la première terre.
Okay ? D'accord. Commence. Donc, on n'a pas éliminé. Moi, je pensais que...
Non. Après, tu vas les éliminer sur la voie de la méditation. Et c'est sur la voie de la méditation qu'il y a les différentes terres. Première, deuxième, troisième, jusqu'à la dixième. Et après, tu vas arriver à la voie, ce qu'on appelle le où il n'y a plus besoin de méditer. Et ça sera l'état de Bouddha. Donc, tu as la voie de vision, ou le chemin de vision, ou voie de vision, pareil. Chemin de vision, qui est la première perception directe. Tu perçois quelque chose que tu n'avais jamais perçu. Et là, c'est formidable. Là, tu as compris la vacuité, mais tu as encore des perturbations mentales. Ce n'est pas parce que tu perçois tout d'un coup la vacuité que toutes tes perturbations mentales s'en vont, tu vois. Mais tu as une première perception directe. Cette perception directe, il va falloir que tu t'y accoutumes, que tu t'y habitues. Hein, c'est comme les perturbations mentales, hein, mais dans le sens inverse. Donc, tu vas t'y habituer et là, tu vas aller graduellement, tu vas franchir toutes sortes d'étapes, 10 étapes, jusqu'à l'état de Bouddha. Et là où tu vas, de la première à la huitième, tu vas éliminer les perturbations mentales grossières et subtiles, et de la huitième à la dixième, le voile cognitif. Et tu deviendras un Bouddha. Ça va pas prendre forcément entre le moment où tu rentres sur la première terre où tu deviens Bouddha, le temps que tu y passes, ça dépend de toi aussi. Comment tu t'habitues dans ces méditations, comment tu pratiques. Mais je pense que, je ne sais pas, je suppose, ça peut aller assez vite, voilà, suivant ta motivation de vouloir atteindre l'éveil, suivant différentes choses. Quoi, voilà. Mais il y a encore des perturbations mentales. Il y a encore les graines des perturbations mentales. Les graines. Hein ? Oui. Attends, question sur Zoom. On les laisse parler un petit peu.
Oui, il y a Camille.
Ouais, Camille. Ah, mais Camille, on ne l'avait pas entendue encore, tiens. Elle n'était pas là hier ? Ah, c'est pour ça. Oui,
Camille, excusez-moi.
Exprime-toi pour une fois.
Tu dois allumer ton micro, excusez-moi.
Oui, bonjour. J'étais là, mais j'étais coupée hier. Du coup,
t'as été coupée ?
Pour poser des questions.
Ah là là.
Bah, j'étais pas tout le temps là, je ne pouvais pas, du coup, je ne me suis pas permis de... Je me suis dit que ça se trouve, ça avait déjà été répondu. Non, du coup, moi, j'avais une question sur l'attachement au jeu. J'ai un peu du mal à faire la distinction, à cerner la distinction entre l'attachement au jeu et la compassion qu'il faut quand même avoir envers soi. Parce que souvent, les maîtres, ils insistent sur ça, sur la compassion qu'on doit
la compassion
soi
commence par soi, oui. La compassion pour les autres doit forcément commencer par soi.
Et du coup, j'ai du mal à avoir l'attachement, à voir à quel moment ça passe dans l'attachement.
Difficile à dire. On a de l'attachement au soi, c'est indéniable. Mais on a un attachement des moments un peu pervertis au soi. Parfois, c'est mélangé de dénigrement, enfin d'autodéception, de choses comme ça. Et la compassion, le premier chose, c'est développer la compassion. Ça veut dire voir en fait nos propres souffrances. Avant de voir les souffrances des autres, de vouloir éliminer les souffrances des autres, il faut d'abord commencer par voir ses propres souffrances. Et c'est ça que ça veut dire avoir de la compassion pour soi. Ça veut dire regarder ses propres souffrances, regarder son fonctionnement mental, regarder tout ce qui engendre de la souffrance. Et à ce moment-là, l'attachement, il est là de toute façon. Il y a un attachement pour soi. Mais à ce moment-là, il est dirigé vers quelque chose qui va aller dans le sens de l'élimination de l'attachement. Voilà, c'est tout ce que je peux dire là-dessus.
Mais quand on voit les souffrances, qu'on les cerne, on a au début, enfin je veux dire forcément, enfin pour moi c'est petit à petit, donc au début on va pas forcément les éliminer immédiatement. Et du coup, est-ce que avoir de la compassion quand on n'y arrive pas, c'est ok, ou est-ce que du coup non, il faut être sévère avec toi et se dire là ça va pas. C'est très mal.
Il n'y a pas de règle, il n'y a pas de dogme, c'est à toi de voir à quel moment il faut être doux envers toi-même et à quel moment il faut que tu t'aiguillonnes un petit peu. Parfois, il y a la paresse qui peut prendre le dessus, l'autochérissement qui influence un petit peu les choses. C'est à chacun de voir. Il faut trouver un équilibre justement entre cette espèce de l'autochérissement personnel et puis quand est-ce qu'il faut justement il faut toujours le combattre de toute façon. Parce qu'on a toujours tendance à vouloir se chérir soi-même, ça c'est sûr. Donc mais après il faut garder une certaine souplesse aussi, hein. Parce que sinon ça peut être dangereux.
Okay, merci. Et j'ai juste une petite question concernant les livres. Je voulais juste savoir sur les éditions Mayana, le lamrim que tu as traduit, le lamrim bleu, le lamrim spirale. Il n'est pas dispo en fait en e-book.
En e-book non, oui. Pas encore. Il va l'être à un moment donné. Et pour l'instant, il ne l'est pas encore, mais je crois qu'ils sont en train d'y travailler dessus pour le rendre disponible en e-book. Ça va arriver, je ne sais pas quand, mais il faudrait voir. Mais ça va exister, oui, en e-book. C'est prévu.
Okay, merci.
C'est prévu.
Merci.
Ta question était intéressante parce que ça me rappelle quelque chose. Hier, on a parlé des antidotes et je voulais quand même mettre l'accent mettre le doigt sur un. Il faut se méfier quand on applique les antidotes de pas agir de façon extrême non plus. Par exemple, l'antidote qu'on applique en voyant quand on veut se détacher de quelqu'un, en voyant l'impureté du corps humain, ne pas tomber dans un extrême. À force de voir l'impureté du corps humain, avoir un dégoût pour le corps humain, d'être complètement. Il faut faire attention. C'est ça que je voulais dire, que ça peut être dangereux tout à l'heure, quand j'ai dit. Quand on applique des antidotes, il faut aller jusqu'à certains points, mais pas au point de développer un dégoût complet du corps humain, c'est-à-dire ne pas pouvoir supporter son corps ou le corps de quelqu'un d'autre, hein, mais d'avoir une attitude complètement extrémiste par rapport à ça. Hein. Je pense qu'il peut y avoir plein d'exemples. Si on applique des antidotes de manière trop forcenée, avec trop de tension, ça peut créer l'effet inverse. Hein. Par exemple, si on développe, par exemple, la bienveillance, on veut développer plus de bienveillance envers quelqu'un, par exemple, mais si on force trop, par exemple, ça peut devenir un attachement. Aussi. Donc, il faut être très habile quand on applique les antidotes. Il ne faut pas le faire d'une manière extrême. Il ne faut rien faire de manière extrême. C'est pas ça, la voie médiane. Mais c'est les appliquer avec suffisamment d'habileté pour pas que ça produise l'effet inverse. C'est-à-dire que voilà, qu'il y a un dégoût du corps, ou qu'on abandonne, qu'on ne s'occupe plus de soi, par exemple. Voilà, c'est, ça serait complètement contre-productif, comme on dit. Bien, oui, je continue. J'avance dans les. On a vu les six. Qu'est-ce qu'il faut voir dans ce chapitre sur les perturbations mentales? Oui, très important, les défauts des perturbations mentales. Donc, puisque on doit les considérer comme des ennemis, il faut avoir une espèce de liste présente à l'esprit, de voir que chaque fois qu'une perturbation mentale apparaisse, voir son méfait, voir ce qu'elle a de défectueux. Alors là, je vais vous énumérer tous les méfaits des perturbations mentales et vous choisirez celle qui vous convient. Première, les perturbations mentales, c'est ce qu'on a dit, elles nous font souffrir dans cette vie et dans les vies futures. Ok ? C'est évident. Hein ? Dans cette vie, bon, ça crée des perturbations mentales, et dans les vies futures, ça amène du karma négatif et donc de la souffrance. Donc, deuxième, les perturbations mentales sont nuisibles à autrui et à soi-même. Donc, comme on ne veut pas se faire du mal, logiquement, on devrait éliminer les perturbations mentales si on ne veut pas se faire de mal. Donc, en fait, on est un peu maso quand même. Si on entretient les perturbations mentales, c'est qu'il y a quelque chose... voilà. C'est en ça que le Bouddha nous montre, en fait. Hein, donc... depuis le début, il nous montre qu'on est complètement, qu'on va complètement à l'encontre de la réalité. Notre réalité, c'est de vouloir être heureux, et on entretient des choses qui nous rendent malheureux. C'est illogique. Donc, les perturbations mentales vont retarder notre libération. Plus on va les entretenir, moins vite on va se libérer du samsara. Qu'est-ce qu'on veut ? Là, il faut savoir ce qu'on veut aussi. Hein. Si on veut rester dans le samsara et puis voilà, cultiver la cellule avec tout ce qu'il faut, ou au contraire, est-ce qu'on veut se libérer, hein ? Donc là, ça nous renvoie à nos propres désirs, notre désir profond. Chaque fois qu'on est en présence d'une perturbation mentale, on veut la suivre. Si on la suit, c'est le samsara. Si on ne la suit pas, c'est la libération. On choisit. Donc, chaque fois qu'on va suivre les perturbations mentales, ça va retarder les réalisations. Ça va retarder la réalisation de la vacuité. Ça va retarder la compassion. Si on est dans l'attachement, on n'est pas dans la compassion. Si on est dans l'attachement, dans la colère, on est encore moins dans la compassion. Hein ? Donc, chaque fois qu'on entretient ça, eh bien, on se prive en fait des réalisations de la voie. On va à reculons, en quelque sorte. On peut regarder son esprit. Comment est notre esprit quand on a une perturbation mentale ? Il est perturbé, il n'est pas calme. Bon, ça déjà, ça peut. On n'a pas envie d'avoir un esprit totalement perturbé. Ensuite, autre méfait. L'esprit est dans l'erreur. Hein ? Ce qu'on observe, c'est pas l'objet en question. On l'a dit hier. C'est pas l'objet en question qu'on voit. C'est ce que notre perturbation déguise en fait. Donc on est dans l'horreur, dans l'erreur par rapport à l'objet que l'on a en face de soi, hein, à cause de la perturbation mentale. Ça peut être l'horreur. Hein. On développe donc une perception erronée. On est dans une perception erronée. Troisième, je ne sais plus où j'en suis. Si on suit les perturbations mentales, on renforce notre familiarisation avec les facteurs perturbateurs. Si bien qu'ils vont continuer à apparaître. Est-ce que c'est ça qu'on veut ? Continuer à être sous leur influence ? Voilà. Autre méfait, à cause des facteurs perturbateurs, on crée du karma négatif. Obligatoirement. Obligatoirement. Donc on crée des actions négatives dans cette vie et donc on va continuer à en créer dans les vies futures puisqu'il y a un effet de boule de neige. Hein. Au niveau immédiat, quand on a une perturbation mentale, on n'est pas heureux. On n'est pas vraiment heureux. Ni quand il y a de l'attachement, ni quand il y a de la colère, ni quand il y a de la jalousie, ni quand il y a de l'orgueil. On n'est pas heureux. Quelqu'un qui est orgueilleux, c'est quelqu'un qui n'est pas heureux. Il a besoin de surestimer ses qualités pour se donner un semblant d'existence heureuse. Quoi. Donc, quand on peut regarder directement son esprit, quand on est pris par une perturbation mentale, on n'est pas dans la joie. Hein, on est dans une fausse joie. Et on est plein d'appréhension, si c'est de l'attachement, par exemple. L'attachement peut nous mettre dans un certain état de joie, mais si on regarde bien dans cette joie, il y a beaucoup d'appréhension derrière. Peut-être même beaucoup de peur. Qui crée, la joie qui est dictée par l'attachement, en fait, elle crée un voile. C'est pas une vraie joie. C'est une joie qui nous empêche de voir le reste. Qui nous empêche de voir que derrière la joie, il y a de l'appréhension. Il y a de la peur. Je parle pas de la vraie joie, hein. Je parle de la joie qui vient de l'attachement. Donc, il y a un manque de confiance en soi aussi, quelque part, dans l'attachement. Si on a besoin d'être attaché à cette chose-là ou cette personne-là, c'est parce qu'on n'a pas confiance en soi. Et quelque part, on projette sur cette personne des qualités qui vont nous aider à nous. L'attachement, c'est toujours par rapport à soi aussi. Donc, manque de confiance en soi. Quand on se met en colère, c'est qu'on a perdu un peu ses moyens aussi. C'est qu'on a perdu la confiance en soi, on a perdu son calme. Quand on est confiant, ben on ne se met pas en colère. Quand on est sûr de ses opinions, on arrive à les formuler d'une manière juste, d'une manière calme, je veux dire. Une autre chose, bon, c'est, je les ai pris dans Shantideva. Hein, il dit aussi que les perturbations mentales accroissent notre mauvaise réputation. Quelqu'un qui est colérique, bah, il va passer comme quelqu'un de désagréable aux yeux de ses confrères, de sa famille et tout ça. Donc, réputation, on veut dire, même au sein de notre famille, on va être vu comme quelqu'un qui n'est pas très... voilà. Pas très sympa. Qui est difficile, quoi, en tout cas. Ensuite, c'est Shantideva qui dit ça, on est l'objet de réprimandes, c'est-à-dire de nos supérieurs, quels qu'ils soient, hein, vont forcément nous voir d'un mauvais œil. Et on va faire l'objet de certaines réprimandes ou de certaines critiques, disons. Voilà. Penser que les perturbations mentales sont à l'origine de toutes les souffrances. Bon, ça c'est peut-être un peu abstrait, je ne sais pas. Ah oui, un autre méfait, les perturbations mentales affaiblissent nos ressources. C'est-à-dire nos ressorts, en fait, c'est un peu dans le sens de la confiance en soi. Hein. Quand on est pris par une perturbation mentale, on perd la confiance en soi et donc on perd la confiance dans ses propres ressources aussi. Et on oublie qu'on a des ressources. Hein. On perd cette confiance en soi. Parce qu'on est dans la jalousie ou je ne sais pas. Par exemple, quand on est jaloux, la jalousie est liée à un manque de confiance en soi. On doute de ses ressources. Et voilà. Donc, on dit aussi que les perturbations mentales détruisent l'espoir d'une renaissance favorable. On devient dans le doute après. On se dit, ben oui, finalement, j'ai tellement de perturbations mentales, c'est impossible que j'aie une bonne réincarnation à cause de ma colère. Je vais forcément aller droit dans les enfers. Et si on a cultivé tout le temps ces perturbations mentales, au moment de la mort, paraît-il, on meurt dans le regret. On ressent un grand regret, finalement, d'être passé à côté d'une vie où on aurait pu travailler sur ces perturbations mentales, mais au contraire, on les a laissées proliférer, on s'est laissé complètement avoir par ces perturbations mentales. On n'a pas fait ce qu'il fallait. Voilà, on développe un regret. Oui. Et voilà. Ok, par rapport aux méfaits des perturbations mentales. Donc ça, c'est Shantideva qui nous encourage donc à voir les méfaits pour les éliminer, enfin pour en tout cas pour les endiguer. Hein.
Mais oui. C'est des considérations mondaines là dont il parle. Comment? La mauvaise réputation et les réprimandes.
Oui, mondain. Oui, au niveau social, au niveau, oui, en général, oui. on vit dans la société quand même, donc puisque ça a une certaine influence sur nous, ce que les gens pensent de nous, ça a quand même une certaine influence, et ça peut agir sur les perturbations mentales, ça peut les exacerber. Hein. On peut être en colère parce que quelqu'un nous critique, ou quelqu'un pense du mal de nous, et on va vouloir se défendre, par exemple. Et on va vouloir, pour se défendre, on va peut-être se mettre à critiquer cette personne. Et donc, voilà. Et donc, on avance, ce sera peut-être le dernier point, ou l'avant-dernier, je ne sais pas, avant du midi, je ne sais pas. Ça va être très important pour cet après-midi, donc il ne faut pas manquer. C'est sur le karma. Bon, on a dit que on est dans l'origine de la souffrance, donc on a vu la perturbation mentale, c'est bon. On a bien vu. Maintenant, on a vu le karma aussi dans un module précédent. Il faut y revenir un petit peu pour bien comprendre, parce que bon, on a vu le karma d'une manière peut-être un peu grossière. Il y a les subtilités du karma qu'il faudrait quand même un peu analyser. Et je vais revenir sur certains points. Bon, peut-être pour vous c'est acquis, peut-être pas pour tout le monde, mais enfin, je voudrais quand même revenir sur certaines catégories, divisions du karma. Donc le karma, définition du karma. Si je m'en vous demandais de définir ce que c'est que le karma, c'est très simple. Alors c'est la cause de nos souffrances. C'est ça que tu as dit ? La cause de nos actes. Oui, c'est la cause de nos actes, c'est pas mal. Ça se rapproche assez bien de la définition, en tout cas d'un aspect de la définition. Le micro, si c'est des longues questions, si c'est juste comme ça pour intervenir. Ça c'est la deuxième origine de la souffrance. Il y a les perturbations mentales et la deuxième c'est le karma. C'est à cause de ça qu'on tourne dans le samsara, hein, des perturbations mentales et du karma. Bon, pour aller plus vite, je vous donne la définition. Une définition. Hein. Le karma, c'est le facteur mental de la volition, ou de l'intention, si vous préférez. Volition ou intention, c'est pareil, synonyme. Hein ? Donc c'est un facteur mental, en fait. Le karma est lié à l'intention. Et c'est ça qu'il faut bien voir. Donc dans le sens un peu que tu disais. Hein, l'intention, c'est ce qui va inciter l'esprit, à se diriger vers un objet. C'est ça le karma, en fait. C'est ce qui va inciter l'esprit à se diriger vers un objet vertueux, non vertueux ou neutre. Je ne pense pas qu'on l'avait défini comme ça avant, mais c'est ça le point clé. Hein. C'est ce qui va inciter l'esprit, c'est l'intention, hein. Le karma c'est l'intention qui va inciter l'esprit à se diriger vers un objet donné vertueux, non vertueux ou neutre. Il y a trois catégories. Il faudrait y rester un week-end entier sur le karma quand même. C'est très très intéressant. Toutes les choses extérieures, toutes nos perceptions, hein, tous nos sentiments viennent de quoi ? Viennent d'une cause, hein, une cause substantielle et des conditions. Il y a les deux. Il y a la cause substantielle et il y a des conditions secondaires, on va dire, ou contributrices, on dit, qui contribuent au karma. Voilà. Cause substantielle et conditions secondaires. Pourquoi est-ce que le karma nous apporte à cette caractéristique propre au karma, hein? La caractéristique unique, propre au karma, c'est de nous apporter du bonheur ou de la souffrance. Ça, c'est la caractéristique du karma. Pourquoi ? Le karma, c'est pas que la relation de cause à effet. Hein, d'accord ? Le karma fait partie de la relation de causalité. Mais c'est pas que ça. Enfin, je veux dire... C'est un aspect particulier de la relation, de cause à effet. La relation de cause à effet est plus vaste. Hein ? Elle touche plein de choses dans l'univers qui ne sont pas du karma. Hein ? Le karma intervient à partir du moment où nous, nous sommes touchés là-dedans, où nous sommes partie prenante dans cette relation de causalité. Donc parler d'une graine qui donne un fruit, voilà, c'est pas du karma, ça. C'est la relation de causalité. La relation, ce qu'on appelle le karma, c'est une relation de causalité particulière qui nous touche particulièrement. Je prends un exemple. Un jour, il fait beau. Il fait une très belle journée, les oiseaux chantent, tout va bien, le temps est parfait, le soleil brille, le ciel est clair, il fait très doux. Et pour que tout cela se produise, il a fallu tout un tas de facteurs pour que ça arrive. Tout ça, c'est arrivé grâce à des causes et à des conditions. Des conditions météorologiques, le mouvement de la Terre, le mouvement du soleil, le vent, l'absence de nuages, etc. etc., etc. Plein de conditions qui se sont réunies. D'accord ? C'est pas du karma, ça. C'est juste des relations causales et voilà qui sont réunies, l'interdépendance, si vous voulez. Mais quand nos sentiments commencent à intervenir, là, il y a du karma, par exemple. Et c'est là où le malheur ou le bonheur vont se décider. Il fait très beau et vous êtes au travail. Vous êtes enfermé dans un bureau entouré d'ordinateurs avec des gens qui circulent dans tous les sens et vous vous sentez extrêmement frustré. Vous n'avez qu'une envie, c'est d'aller dehors parce qu'il fait beau. Vous êtes dans ce bureau mal aéré et voilà quoi. Et ça ne va pas du tout. Et là, vous créez du karma négatif. Par rapport à cette condition extérieure. Vous allez vous sentir extrêmement mal. Et là, il y a un karma. Pourquoi vous êtes là à ce moment-là ? Parce qu'il y a votre travail. Et pourquoi vous êtes attaché à votre travail ? Et blablabla. Et les collègues qui sont désagréables, la machine à café qui ne marche pas, et voilà, lui qui n'a pas jeté le filtre comme il faut, etc., etc. Et tout ça va être créé parce que... Parce que finalement, vous êtes frustré, quoi, parce qu'il fait beau et vous n'allez pas être dehors. Vous ne pouvez pas être dehors, vous êtes obligé d'être dedans. Et là, il y a une intention. Et là, le karma va agir à partir de ce moment-là. Ou alors, tout simplement, c'est le week-end et il fait très beau dehors, vous êtes avec votre famille, et vous vous promenez, vous profitez du beau temps. Donc, le karma commence à jouer un rôle dans notre existence quotidienne à partir du moment où nos sentiments sont impliqués. Donc, voilà. Et quand notre volonté, en fait, notre intention, notre volition, appelez-la comme vous voulez, commence à s'impliquer dans les événements que l'on subit ou que l'on doit subir aujourd'hui, alors le karma va commencer à agir à ce moment-là. Donc, le karma, on peut dire, si vous voulez, le karma a cette caractéristique d'apporter du bonheur ou d'apporter de la souffrance. Parce qu'il y a l'intention qui intervient. Dans le mouvement des planètes, dans le mouvement du soleil et de la Terre, l'absence de vent, quand il fait beau, tout ça, il n'y a aucune intention là-dedans. Tout ça, c'est naturel. Donc, il faut faire la part des choses. Qu'est-ce qui est naturel et qu'est-ce qui est karma ? Oui, c'est pour ça que j'insiste un petit peu là-dessus. Il ne faut pas faire l'amalgame entre les deux. Après, justement, l'intention peut intervenir pour changer un processus naturel. En général, c'est ce qui se passe. Il y a un processus naturel qui est là, et puis l'intention va vouloir changer un processus naturel. Il y a cette capacité aussi dans le karma, s'il y a une volition. Et ça, ça peut apporter de la souffrance ou ça peut apporter du bonheur. Donc, on peut dire que chaque fois qu'il y a l'intention, le karma opère. Ça, c'est le point décisif. Ok ? Par exemple, l'existence de mon corps actuel, la simple existence, le fait que ce corps existe, on peut dire à un certain niveau, le fait qu'il existe, juste qu'il existe. On ne parle pas de... Ça n'a rien à voir avec le karma. C'est simplement la rencontre de certaines, la continuation de certaines molécules, comme on l'a appris en biologie, voilà, l'évolution, etc. Et cette existence, elle est là d'une manière naturelle. Mais à partir du moment où il va y avoir un contact, on va dire, entre ce corps actuel et des sentiments, alors là, il y a karma. Des sensations. Hein, je dis sensations ou sentiments, c'est un peu la même chose. Là, il y a karma. Émotion, voilà. Et là, on va voilà. C'est la même chose pour la conscience hein, aussi. Hein. Là, il y a deux types aussi. Il y a les phénomènes mentaux et il y a les phénomènes physiques. Et donc, notre conscience elle-même, donc la simple continuation de notre conscience, en fait, c'est un processus de causalité hein, qui n'a rien à voir avec le karma. C'est une loi naturelle, si on veut. Mais à partir du moment où cette conscience commence à ressentir quelque chose de plaisant, de déplaisant ou de neutre, alors là, on peut dire que mon karma, comme on dit, commence à entrer en jeu. Hein ? Soit le karma que l'on a créé auparavant, soit ce karma qui commence à se manifester, ou soit le karma que l'on va créer. Si par exemple maintenant j'ai mal à la tête, je commence à ressentir un violent mal de tête, d'un point de vue bouddhiste, c'est qu'il y a eu des causes hein, à part ça. Hein. C'est qu'une certaine chose a été faite dans le passé. Hein. C'est là des actions karmiques ont été rassemblées. Et maintenant donc, à cause de ça, donc j'ai un mal de tête qui est le résultat. Mais le karma, donc, ça nous renvoie à ce qui s'est passé dans le passé et dont on a le résultat maintenant. Donc, quelque part, on peut dire que lorsqu'on a le résultat, quelque part, c'est trop tard. Hein ? C'est trop tard. C'est trop tard pour agir sur le résultat. On ne peut plus l'éliminer. C'est au moment de la cause qu'il faut agir. Hein ? C'est d'éviter, justement, que les causes, d'ancrer les causes. Quand vous avez mal aux dents, si vous êtes chez le dentiste, c'est trop tard pour vous laver les dents, pour vous brosser les dents. C'était avant qu'il fallait le faire. Hein ? Donc, voilà. Si mes émotions ne s'impliquent pas dans un phénomène, si vous voulez, ce n'est pas du karma. C'est à partir du moment où mes émotions sont impliquées, mes perceptions et mes émotions sont impliquées dans le contact avec cet objet, fleur, ce qu'on veut, statue, les bougies, tout ça, qu'il y a karma. S'il n'y a pas de sentiment, s'il n'y a pas d'émotion, s'il n'y a rien, il n'y a pas vraiment de karma. C'est à partir du moment où il y a une connexion entre votre conscience, tout ce qu'il y a dedans, hein, qu'il y a karma. Donc je dirais que le karma, c'est plus la cause, en fait, que le résultat. Quand on dit malencontreusement devant quelqu'un, en parlant de quelqu'un qui a tel ou tel problème, c'est son karma, c'est pas vraiment... ça insiste plutôt sur les faits. Il a telle ou telle conséquence, quoi, en fait. Il est dans cet état-là. On voit, en fait, c'est une mauvaise compréhension du karma lui-même. Parce que là, en fait, on parle plus du résultat que de la cause quand on dit c'est son karma. Hein. On oublie un peu la cause. Donc, si on dit ça, quand on dit si c'est son karma quand on fait face à un problème, ça signifie qu'en fait, on considère plus le résultat comme étant le karma, alors que c'est plus la cause, en fait, qui est le karma. Donc ça, c'est important de le voir, parce que c'est ce qu'on va voir cet après-midi dans les 12 liens. Hein. Voir comment le karma nous amène à renaître dans le samsara. Oui, justement, je voulais en venir à ça. Parce que c'est important aussi, les différents types de karma. Donc, dans le karma, il y a cette distinction. Donc, puisque vous avez compris cette histoire d'intention ou de volition, il y a deux choses. Il y a le karma qui est intention, hein, c'est-à-dire avant l'acte, et il y a le karma aussi pendant l'acte. Il y a la volition avant l'acte, et il y a la volition au moment de l'acte. Il y a les deux. Hein. C'est ce qu'on appelle le karma. C'est difficile à traduire, ça. On parle d'action volitionnelle ou de... Ouais, c'est difficile à... je n'ai pas trouvé la bonne traduction pour ça. Il y a le karma qui a une intention et le karma qui est né de cette intention. J'essayais de... Disons que... Et tout ça, c'est le karma. L'intention de faire quelque chose, c'est du karma. Et l'action, le passage à l'acte, voilà, c'est ça que je veux dire. Le passage à l'acte, c'est aussi du karma. C'est ce qu'on appellerait le karma que l'on a voulu, en fait. Le premier, c'est la volition, le fait de vouloir faire quelque chose. Et ensuite, c'est le karma qui a été voulu, en fait. C'est un peu comme ça qu'il faut le penser. Il y a le karma, ce qu'on appelle le karma méritoire, le karma non méritoire. C'est une autre catégorie. Donc, je vous montre les différentes catégories. Donc, il y a la volition et le karma voulu. Hein. Ensuite, la deuxième division, c'est le karma méritoire, karma déméritoire et le karma immuable. Le karma méritoire, c'est ce qui provoque une renaissance dans les mondes supérieurs. C'est-à-dire le karma vertueux, en fait. Mais attention, karma vertueux contaminé. Parce qu'il y a du karma contaminé et du karma non contaminé. Tant qu'on n'a pas réalisé la vacuité, c'est du karma contaminé. C'est-à-dire, même si on fait un acte positif, il est positif, certes, mais c'est quand même un karma méritoire, un karma vertueux, je veux dire, contaminé. Tant qu'on n'a pas réalisé la vacuité, tout karma, en fait, est contaminé. Mais il peut être vertueux quand même. Il peut être vertueux. Donc ça, on le verra aussi, on expliquera plus en détail cet après-midi. Donc, quand un karma méritoire, c'est un karma qui nous fait renaître dans les mondes supérieurs. C'est un karma contaminé, positif, mais pourquoi je dis contaminé? Parce que ça veut dire qu'il est dans le samsara encore. Il n'est pas une cause qui nous fait sortir du samsara. Si ce karma est motivé par le renoncement, par exemple, ou par la compassion, il peut justement nous être non contaminé parce qu'il il vise à sortir du samsara. Mais si c'est juste faire des actions positives, comme ça, sans vraiment de forte motivation de vouloir être libéré du samsara, c'est un karma contaminé. Oui, attends, je termine juste. Donc, karma méritoire, vous pouvez passer le micro pendant ce temps. Karma méritoire, donc, crée une renaissance dans les mondes supérieurs. Karma non méritoire, c'est-à-dire karma non vertueux contaminé, crée une souffrance, crée une renaissance dans les mondes inférieurs. Et karma immuable crée une naissance dans les mondes du sans-forme. Karma immuable, ça veut dire c'est un karma qui n'est ni positif ni négatif, qui crée des conditions pour renaître dans des états d'absorption méditative extrêmement agréables, hein, mais qui reste contaminé parce qu'on n'est pas sorti du samsara. On appelle ça un karma immuable parce qu'en fait, on reste dans cet état pendant très très longtemps. Hein, on ne renaît pas dans les mondes super... On n'est plus dans le monde du désir, si vous voulez. On est dans un monde sans forme. On peut dire ça. Une sorte de coma, mais très agréable quand même. Je ne sais pas si le coma, c'est très agréable. Mais là, c'est une ataraxie, je crois qu'on appelle ça dans les termes... J'ai trouvé ça. C'est-à-dire un état sans conscience, en fait. Alors, moi, on n'est pas libéré du samsara. Hein. Donc, c'est pour ça que c'est encore contaminé. Ça s'appelle un karma immuable. Okay. Ouais. Et donc c'est une autre division. Hein. Donc on a vu karma, volition et karma voulu, karma méritoire, karma déméritoire et karma immuable. Karma introducteur, c'est une autre catégorie. Karma introducteur ou propulsif, Ça, ça va être très important cet après-midi. Karma établissant et karma complémentaire. C'est une autre division. Karma introducteur ou propulsif, c'est un acte, un karma c'est un acte, qui nous propulse automatiquement dans une renaissance supérieure, inférieure, peu importe. C'est ce qui nous propulse. C'est pour ça qu'on l'appelle introducteur. Il nous introduit directement à la nouvelle naissance. Ok ? Ensuite, il y a ce qu'on appelle un karma établissant qui concrétise en fait la nouvelle naissance, qui la rend, qui l'établit. On va dire. Et karma complémentaire, c'est tout ce qui vient compléter le karma introducteur. Par exemple, on peut avoir un karma négatif, ou disons, on va prendre le positif, ça changera un peu. On a un karma positif qui introducteur, qui nous pousse à renaître dans les mondes supérieurs, comme un être humain, super, avec une précieuse renaissance humaine. Mais on a des karmas complémentaires à cause de certaines actions négatives qui vont atténuer un petit peu ce bon karma, ce karma positif, et faire, par exemple, qu'on va renaître dans une famille pauvre, par exemple, où on n'aura pas suffisamment de biens pour pouvoir pratiquer le dharma, il va falloir qu'on aille travailler, voilà. Ou au contraire, on aura une... on va renaître dans un pays où il y aura des difficultés économiques, ou un pays en guerre, où il y aura tel ou tel événement. Et ça, c'est le karma complémentaire qui viennent s'ajouter, qui sont dus à nos actions négatives, mais qui ne sont pas propulsives. On n'est pas ces actions négatives, si ça avait été un karma propulsif, il nous aurait projeté dans un monde inférieur. Mais le karma propulsif nous a projeté dans un monde supérieur, parce qu'à ce moment-là, c'est un karma propulsif qui a mûri au moment de la mort. Hein. On a eu là cette chance-là que le karma propulsif, c'est ce qui mûrit au dernier moment de la conscience. Hein. Donc, si c'est une graine positive, eh ben, ça va être une renaissance supérieure et le karma complétif va compléter tout ça. Hein, avec des voilà. Donc, c'est le dernier instant de conscience qui propulse dans un état heureux ou malheureux. Oui. Donc, est-ce qu'il y a des questions par rapport à... Il y avait des questions. Attends, t'as plus de questions. J'adore. non, je plaisante.
C'est sur le karma propulsif.
Oui.
Ça m'avait déjà choqué la première fois, là, sur le cours sur le karma. En fait, alors, ça nie tout le travail de toute une vie, par exemple.
Ça nie pas. Ça dépend à quoi tu t'es habitué.
Ce qu'on avait dit, si au dernier moment, par exemple, on est mal entouré au moment de mourir et que...
C'est pas mal entouré, oui.
On développe des pensées négatives, ouais. Ce karma propulsif va forcément nous envoyer vers des mondes inférieurs.
La dernière pensée, oui.
Voilà.
Alors la graine, c'est la graine qui mûrit à ce moment-là.
Oui, mais alors qu'on aura peut-être toutes les autres années travaillé à s'élever. Alors c'est
bad luck. C'est pas juste. Pourquoi cette graine mûrit à ce moment-là? Parce qu'elle est nourrie. C'est parce que justement, elle est plus forte que les autres à ce moment-là. C'est parce que tu as plus une accoutumance peut-être à cette tendance-là qui fait qu'elle elle a tendance à mûrir plus que les autres parce qu'elle a été plus cultivée. Donc c'est pas injuste en fait, quelque part. C'est les autres, elles sont là quand même, mais elles ont été moins cultivées, donc elles apparaissent moins facilement. Et ce qui apparaît, bah, c'est quelque chose qui a été qui est mûr à ce moment-là. Mais le reste ne disparaît pas. Le reste n'est pas perdu. Hein. Mais ça ne va pas être déterminant pour la naissance qui va suivre immédiatement. Mais ça reste dans ton courant de conscience. Hein. Ça reste dans ton sous forme latente. Oui. Sous forme latente. Et ça mûrira. Ça sera nourri, si tu veux, à un moment donné. Dans ta renaissance que tu vas prendre, même si elle est inférieure, tu vas peut-être renaître comme le chien de la reine d'Angleterre.
Oui. Ça ne sera pas trop mal.
Ou le chat de la situation Rayogini.
Ok, merci.
Qui a la chance de pouvoir avoir des donateurs sympathiques, généreux, qui lui offrent des consultations et des...
Ouais, mais pour rebondir, admettons la même condition de mort que ce que Daniel dit, oui. Tu as dit quand même que ça dépendait de causes et de conditions extérieures.
Tout à fait.
Donc, c'est quoi des causes et ces conditions extérieures? Elles sont pas dépendantes de nous.
plus ou moins. Ça dépend. Je ne sais pas. Elles peuvent l'être ou ne pas l'être, ces conditions extérieures. Donc, ça dépend fait... ce que vous avez. Si vous avez demandé au dernier moment, à vos amis d'être là, de venir vous dire leur dernier adieu, de, tout ça,
déjà,
et
si
que ça génère un grand attachement, c'est vous qui l'avez désiré quand même quelque part.
Ouais, mais des fois on n'est pas dépendant.
Parfois,
on n'est pas décideur de ce qui se passe à l'heure de notre mort. Hein.
Bien sûr.
Donc.
Pas complètement, non. Non, non, bien sûr. Oui. Non, non, ça dépend de conditions. Les conditions extérieures ne dépendent pas vraiment de nous, bien sûr.
Mauvaise, et ben voilà.
C'est pour ça qu'il faut éviter de s'entourer de gens avec qui on a des problèmes. Il vaut mieux avoir résolu ses problèmes avant de mourir.
Oui, mais par exemple, si on finit à l'hôpital où les soignants sont surbookés et tout ça, ça ne dépend pas de nous.
Voilà. Rappelez-vous donc, pour qu'un karma mûrisse vraiment, qu'il y a trois facteurs qui sont importants. Hein. Il y a l'intention, il y a l'action et il y a la satisfaction. Hein, en gros. Hein. L'intention, c'est la première catégorie, c'est le premier stade, qui est la volonté, donc le désir de faire quelque chose, que ce soit positif, négatif ou neutre, que ce soit conscient ou inconscient. Donc cette forte envie d'agir d'une certaine manière. Donc il y a cette intention, premier point. Il y a ça, pour qu'il y ait le karma. Ensuite, il y a l'action. Et ça, c'est ce que j'appelle le karma voulu, ce qu'on a voulu. C'est-à-dire l'action elle-même. Le passage à l'acte, qui peut être physique, verbal ou mental. Donc ça, c'est le karma voulu, c'est l'aspect voulu. Et le troisième point, pour qu'un karma soit complet, le troisième aspect, c'est qu'il faut qu'il y ait la satisfaction, ce qu'on appelle aussi la réjouissance. Se réjouir d'avoir eu cette intention, de l'avoir menée à bien, et voilà, d'avoir accompli cette action. Donc il y a un sentiment de soulagement, de réjouissance, satisfaction. Je pense que satisfaction convient peut-être mieux. Donc, si dans une action volitionnelle, ces trois choses sont réunies, l'intention de faire quelque chose, l'accomplissement de l'action elle-même et le sentiment de satisfaction quand elle est accomplie, alors du point de vue bouddhiste, c'est une action, un karma complet. C'est un karma complet. Donc, est-ce que quand le karma n'est pas complet, est-ce qu'il y a quand même karma ? Ben oui, il y a quand même karma, à partir du moment où il y a l'intention. Alors, quand il n'y a pas l'intention, est-ce qu'il y a karma ?
Non.
Oui, mais moins fort.
Ah oui.
Et moins fort, à cause des tendances. Il peut y avoir... il n'y a pas une intention grossière, disons, mais à un niveau plus subtil, à un niveau inconscient. Bon nombre de nos actions on commet des actions comme ça, à un niveau habituel, disons. Voilà. Donc le poids des actions va dépendre de ça, en fait, de ces facteurs, s'ils sont réunis, s'il y a intention ou s'il n'y a pas intention. Donc c'est-à-dire, s'il n'y a pas intention, le karma est moins fort. Mais notre esprit peut être engagé, même s'il n'y a pas une intention très forte, notre esprit peut quand même être engagé d'une manière consciente ou moins consciente, disons, sans qu'il y ait forcément intention. Donc là, il y aura quand même un karma. D'abord intention, action, et après satisfaction. Donc si on se souvient de ça, déjà, ça, c'est pas mal. Et dernier aspect de la loi du karma, je vais terminer là-dessus peut-être, sur cette note un peu peut-être humoristique. On ne peut pas tricher avec la loi du karma. On peut le faire avec la loi sociale, avec toutes les lois, en payant tout ce qu'on veut, les lois humaines, disons. Mais avec la loi du karma, on ne peut pas tricher. C'est comme ça. Et donc la seule manière de purifier un karma, hein, je ne parle pas de purifier les graines, mais de purifier qu'un karma donne des effets négatifs, c'est de faire les pratiques, justement, qu'on fait, les pratiques de purification, en se rappelant quelle action négative on a commise dans la journée, par exemple, et en le regrettant. Hein, et en ressentant un certain remords ou un remords par rapport à cette action. Et c'est ça qui va être le facteur vraiment efficace pour pouvoir, la force efficace, comme on l'a fait hier soir dans la pratique de Vajrasattva, les quatre forces. Et la plus forte de ces quatre forces, c'est la force du remords. Parce qu'elle prend le contre-pied de l'intention, finalement. Quand on a un remords, ben, on regrette cette intention. Donc c'est ça qui va, c'est comme un antidote direct. On va éliminer l'intention que l'on avait de faire cet acte et on va y appliquer donc le contraire. On va y appliquer le remords. Donc c'est ça qui va faire qu'on va purifier tout de suite. Donc plus on le fait tôt, mieux c'est en fait. Moins ça a la chance de traîner dans notre esprit et de créer des graines lourdes et puissantes. Hein. Puisqu'un des principes du karma, vous savez, c'est que le karma est expansif. C'est-à-dire qu'une petite graine peut donner de grands effets. Et donc, si on la laisse traîner. Et donc, une action négative peut être enrayée par le remords, par les pratiques, par le regret, par cette force. Hein. Donc, ce n'est pas irrémédiable. Hein. Même si on a commis une action négative, on peut toujours la purifier. Ou plutôt, c'est le mieux. Donc, une action négative peut être enrayée par une action positive. Et inversement, une action positive peut être enrayée par une action négative, comme la colère, par exemple, s'il y a de la colère. La colère, vous avez créé une action positive. Normalement, cette action positive devrait vous amener du bonheur. Hein, mais vous n'avez pas fait de dédicace à la fin de vos pratiques. Vous ne l'avez pas mis dans le coffre-fort. Vous ne l'avez pas mis en lieu sûr, en la dédiant, Et donc, en la dédiant au bien des autres, en la dédiant au renoncement, en la dédiant à la libération. Et donc, un acte de colère, une intention colérique va éliminer, enrayer l'effet de cet acte positif, qui aurait pu avoir un gros effet, qui aurait pu vous mener à l'éveil, puisque petit peut devenir grand. Voilà. Et mais non, une perturbation mentale l'a éliminé. Donc on va vite dédier l'énergie positive que l'on a créée ce matin par notre pratique, c'est ça?
Juste pour purifier, on purifie, mais après en se disant qu'on ne va pas refaire la même erreur.
Donc c'est la force suivante.
Parce que c'est trop facile autrement. Hein, d'accord.
C'est pour ça qu'il y a les quatre forces d'opposition. Hein. Après la résolution, il y a l'antidote qu'on applique, la pratique de Vajrasattva ou toute forme de pratique qu'on peut faire qui soit positive. Et la dernière, c'est la détermination, bien sûr, à ne pas recommencer, à ne pas réitérer un tel acte. Et de le faire avec une sorte de promesse ou en prenant un vœu que l'on va vraiment se tenir à cette promesse, qu'on va vraiment tenir cette promesse. Bon, je cherche compilation. Donc on va dédier. Je vais essayer de partager, mais je trouve plus le truc, le document. Voilà, c'est ça. On va prendre le doc page 16. Donc, il ne s'agit pas simplement de réciter les mots, mais vraiment de penser qu'on a vraiment créé quelque chose de positif en étant là ce matin. C'est quelque chose de très, très noble et de très vertueux que l'on a créé ensemble. C'est une action positive. Et cette action positive, donc, on va la dédier pour le bien de tous les êtres, pour notre libération du samsara, mais plus ultimement que ça, pour notre éveil, dans le but d'être bénéfique à tous les êtres. Donc ça, c'est la dédicace conventionnelle, on va dire, de cause à effet. Hein. Telle cause va amener tel effet. Cause positive va amener un effet positif. Une cause d'éveil va amener l'éveil. Et ultimement, en pensant que ces actions positives, ultimement, il n'y a pas d'action positive qui est créée. Il n'y a pas de création d'action positive au niveau ultime. Il n'y a pas de quelque chose à quoi on dédie ultimement, ça, puisque tout est interdépendant, donc il n'y a pas d'existence en soi de ces choses-là. Ça ne veut pas dire qu'elles n'existent pas conventionnellement, puisqu'elles fonctionnent par la loi du karma, mais ultimement, si on cherche exactement qu'est-ce que c'est que l'action positive, c'est très difficile à trouver précisément. On va trouver plein d'éléments qui ne sont pas ça, donc ça n'a pas d'existence propre. Donc on lit ensemble. Gewa deye nyo do da la ma sangye dro gyo ne dro wa chi kyang ma lu pa te Tous ceux qui sont malades recouvrent rapidement la santé, que toutes les maladies de ce monde disparaissent à jamais, que dans aucune contrée, de par ce vaste monde, n'advienne épidémie, famine ou conflit, que les êtres vivent dans la vertu et le bonheur grâce à la richesse du dharma et que croisse l'abondance, la prospérité et l'excellence. Puisse le précieux esprit d'éveil suprême naître là où il n'est pas né, ne pas dégénérer là où il est déjà né, mais s'accroître de plus en plus. Puisse la précieuse vue de la vacuité naître là où elle n'est pas née, ne pas dégénérer là où elle est déjà née, mais s'accroître de plus en plus. Puisse tous les êtres, mes pères et mères, connaître le bonheur et tous les états d'existence inférieure être vides à jamais. Ou qu'il y ait des bodhisattvas, puisse toutes leurs prières se réaliser immédiatement. Voilà. N'oubliez pas d'offrir votre repas avant de le consommer, ça élimine l'attachement. Ça contrecarre l'attachement. Et bon appétit. On se retrouve tout à l'heure. Je pense que vous êtes prêts maintenant pour subir cet après-midi l'explication technique des 12 liens.